Alors, si dans la bibliothèque vous ouvrez le dictionnaire des jésuites, le dictionnaire de Trévoux, hein, qui est de 1734, à l'article Inquisition, eh bien, vous lisez, enfin nous lisons, juridiction ecclésiastique établie en Espagne, au Portugal et en Italie pour la recherche de ceux qui ont de mauvais sentiments de la religion ou de la foi chrétienne. Si nous ouvrons le Diccionario de Autoridades cher aux hispanistes, qui est contemporain, puisqu'il est 1732, nous lisons, alors là j'ai traduit, ne sachant pas si je m'adressais à un public qui n'était pas exclusivement hispaniste, donc j'ai traduit, non pas juridiction ecclésiastique, comme d'entrez vous, mais tribunal royal ecclésiastique établi avec l'autorité pontificale contre ceux qui sont coupables de manquements envers la religion et la foi catholique. Ce tribunal existe en Espagne, au Portugal, en Italie. Alors, à en croire ces autorités, à l'aube des Lumières, le mot désignait l'institution espagnole par antonomase. D'ailleurs, c'était déjà le cas dès le XVIe siècle, évidemment. Alors, on associe en effet souvent l'idée d'inquisition à l'Espagne des rois catholiques, alors que j'ai pris un malin plaisir à le rappeler aux Français quelquefois tout de même, elle est apparue bien avant et ailleurs, dans le midi de la France et au cœur du Moyen Âge. Alors, je ne rappellerai que d'un mot, hélas, parce que, hein, on ne peut pas tout faire, ce précédent médiéval, qui est à lui seul un très vaste sujet, car l'Inquisition espagnole, celle dont nous parlons ici, donc la moderne par rapport à l'ancienne, en est issue, mais elle s'en est également rapidement écartée. Alors, cette filiation et cette rupture, en fait, sont non pas au cœur de notre sujet, mais à l'origine du sujet. Donc je vous dirais simplement un mot qui ferait évidemment dresser les cheveux sur la tête à un médiéviste. Quelques mots sur l'inquisition médiévale. Chacun sait que c'est dans le contexte de la croisade des Albigeois menée par Rome contre les cathares du midi de la France qu'est né ce tribunal d'un genre nouveau, qui acheva, disons, de prendre forme en 231-232, qui correspond à la date que l'on donne habituellement de naissance pour l'inquisition, abusivement en fait, parce que là c'est l'aboutissement d'un processus. Alors, vraiment pour schématiser, disons que Grégoire IX décréta en 1231 que le droit exclusif de l'Église a condamné l'hérétique pour lutter justement contre les empiétements du pouvoir impérial. Et il imposa, pour aller vite, un procédé pénal spécifique qui était étranger au droit romain. Et c'est ce qui est connu comme, sous le terme latin, de inquisitio. Vous voyez, sans trop d'efforts, que ça a donné inquisition. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, contrairement à la. Comment dire, au système inquisitoire, c'est l'autorité qui prend l'initiative de l'accusation. Il n'est même pas besoin de délation ni d'accusation préalable. Et c'est cette même autorité qui assume la recherche des coupables, etc. Cette procédure, donc per inquisitionem, devait être menée sans formes inutiles, en réduisant les formalités au maximum, en allant au fait, bref, efficacité avant tout. Deuxième point, pour Grégoire IX, déceler l'hérésie exigeait des connaissances souvent absentes chez les juges épiscopaux qui étaient depuis toujours chargés de ces problèmes. Or, le pape voulait des juges ayant une solide formation théologique, indépendants des pouvoirs locaux, donc insensibles à la corruption et à la menace, et c'est pourquoi il confia en 1232 l'Inquisition à l'ordre des dominicains qui venait d'être fondé en 1516. Par un Espagnol, Diego de Guzman, qui s'était impliqué dans cette croisade. Ainsi, bousculant l'ancienne justice épiscopale, qui est peu efficace sur le terrain des hérésies massives, l'inquisition pontificale ou monastique était née. La particularité de cette inquisition, c'est que ces juges étaient donc des dominicains, parfois des franciscains aussi, mais majoritairement des dominicains. Ces juges étaient soumis à la seule autorité du pape, sans intermédiaire, sans avoir de compte à rendre aux évêques. Donc le nouveau tribunal a été tellement efficace que les grandes hérésies ont disparu, et victime de son succès, l'Inquisition au XVe siècle n'était plus guère qu'un souvenir, et même parfois très vague, sans avoir été pour autant supprimée. En fait, elle était toujours en vigueur, mais sous le boisseau. Alors cette première Inquisition a été active, et même parfois très active, dans une grande partie de l'Europe occidentale, jusqu'en Allemagne, en Hongrie et en Bohême même. En Espagne, elle pénétra en Aragon, du fait de l'infiltration cathare par la frontière, c'est facile à comprendre, mais il faut dire qu'elle se montra quand même extrêmement modérée. Par contre, elle ne fut jamais implantée dans les territoires de la couronne de Castille. Or, voici qu'à la fin du XVe siècle, l'Inquisition ressurgit, et curieusement, dans cette région qui ne l'avait jamais connue. En outre, pour un type de délit, un type d'hérésie, je mets hérésie entre guillemets, mais bon, un type d'hérésie propre à l'Espagne et dont s'était peu souciée l'ancienne Inquisition, évidemment. Alors, en effet, les deux facteurs déterminants de son instauration dans le royaume de Castille et ensuite dans toute l'Espagne sont, pour simplifier, la dégradation irréversible de la situation des Juifs d'Espagne et, ce qui nous importe plus ici, la situation politique de la monarchie. Pour ce qui est du premier point, je ne peux pas le développer. C'est un vaste et passionnant sujet et qui me passionne moi particulièrement aussi. Je rappellerai seulement que la population juive d'Espagne, très minoritaire mais très active tout au long du Moyen-Âge, fut victime au cours de l'été 1391 d'une série de massacres en chaîne, des pogroms avant la lettre, ce qu'on appelle la matanza en espagnol, qui ont réduit à néant une bonne partie des ce qu'on appelle la juderia ou al-hamas ou al-jamas plutôt. Cette situation a été, disons, rendue possible par la défaillance d'un pouvoir royal jusqu'alors protecteur. Mais nous sommes à une période où il y a, disons, des régences dues au fait que les souverains meurent en laissant des successeurs au berceau. Alors, les conversions de survie, parce que c'était ça, s'étant multipliées, une nouvelle composante qu'on va appeler los conversos en espagnol, que je me refuse personnellement, mais c'est ma manie à moi, d'appeler judéo-convert, parce que c'est une mode qui a été lancée notamment par Jean-Pierre de Dieu, mais je trouve que judéo-convert, convert en français, c'est un autre sens. Converso, c'est autre chose. Alors, où je garde le mot en espagnol, entre guillemets ou en italique, où j'utilise le mot nouveau chrétien, sous-entendu nouveau chrétien issu du judaïsme, parce que, bien entendu, il y a aussi des nouveaux chrétiens issus de l'islam, mais qui ne sont pas vraiment concernés pour le moment. Donc, cette accélération des conversions avait donc apporté cette nouvelle composante. Vous allez me dire, il y avait quand même des gens qui se convertissaient avant. Bien entendu, mais à titre individuel. Parce que là, il s'agit de conversions massives sous l'effet de la peur, de la persécution. Et bien entendu, dans ce cas-là, le contraire nous étonnerait, elles ne sont pas toujours sincères. Donc, cela a entraîné, disons, une complexité accrue de la société espagnole. D'autant plus qu'une partie, évidemment, de ces nouveaux chrétiens et de leurs descendants, et même de leurs descendants de plusieurs générations, hein, puisque le problème va durer longtemps, restèrent fidèles au judaïsme en leur fort intérieur. Disons, pour simplifier, que tout le XVe siècle est un long pourrissement de la situation qui a été ainsi créée. Et ça va aboutir à des mesures draconiennes, établissement de l'Inquisition pour éradiquer ce crypto-judaïsme, nous y reviendrons, suivi de l'expulsion 12 ans plus tard définitive des Juifs d'Espagne, donc décrétée, comme tout le monde le sait, j'ose à peine le rappeler, en 1492, sans compter l'invention, au milieu du XVe siècle, du statut discriminatoire de pureté de sang. Par ailleurs, ces nouveaux chrétiens avaient conservé les talents, surtout professionnels, qui avaient rendu leurs aïeux indispensables. Or, la réussite sociale de nombre d'entre eux va éveiller dans la population vieille chrétienne des sentiments, disons, négatifs, pour simplifier les choses. Ce qui va donner lieu pendant le troisième quart du XVe siècle, c'est-à-dire justement essentiellement le règne de Henri IV de Castille, le prédécesseur de la reine Isabelle, à de sanglants conflits urbains à Tolède et à Cordoue, d'un genre nouveau, ce qui opposait les chrétiens de souche, disons, les vieux chrétiens, aux nouveaux convertis, aux nouveaux chrétiens. Et ça s'est passé, là encore, bien entendu, dans un contexte politique chaotique qui favorise ce genre de choses, dans une situation pratiquement de guerre civile, disons-le clairement, qui oppose une partie de la noblesse au roi. Donc, le deuxième facteur déterminant, c'est donc la situation de la monarchie au cours de ce XVe siècle. Alors, je vous rappelle rapidement que la situation politique du royaume de Castille va jouer un rôle déterminant dans l'instauration de cette nouvelle forme d'inquisition. Je rappellerai rapidement que depuis l'avènement sanglant de la nouvelle dynastie des Trastamares, le royaume de Castille est en proie quasiment de façon continue aux turbulences, suscitées notamment par les ambitions et les rivalités des clans nobiliaires. L'autorité royale était ressortie, je viens d'y faire allusion, très affaiblie du siècle écoulé entre l'avènement du premier Trastamare, 1369, et l'avènement de la dernière, c'est-à-dire Isabelle, la future Isabelle la catholique, en 1474. En 20 ans de règne, son prédécesseur, Henri IV de Castille, avait achevé de ruiner son autorité Et lorsqu'il mourut en décembre 1474, de façon assez inattendue, sans avoir réglé l'épineux problème ou l'épineuse question successorale sur laquelle je passe, et qui laissait le royaume dans une situation explosive, eh bien, sa jeune demi-sœur, qui alors avait 24 ans, Isabelle, s'autoproclame reine de Castille. 5 ans auparavant, ayant déjà fait preuve à 17 ans d'un caractère bien trempé, elle avait épousé contre la volonté du roi son demi-frère, ils avaient 25 ans de différence, elle avait épousé l'héritier quasiment à son insu, l'héritier de la couronne d'Aragon, son cousin germain Ferdinand, qui était lui aussi un trastamare. Ainsi, disons que succédait au plus piteux des règnes, celui qui devait être le plus glorieux de toute l'histoire d'Espagne, et ce serait aussi le dernier de la dynastie. Alors les premières années de leur règne, pendant les 5 premières années, ont été grevées par une guerre, disons, d'invasion, puisque le roi de Portugal, ayant profité de la situation, avait envahi une partie de la Castille. Ça va donner lieu donc à des conflits, des guerres, etc., jusqu'à ce que les Espagnols finissent, grâce à Ferdinand aussi qui tient cet aspect militaire en main, ça s'achève par la victoire des Espagnols, les Portugais s'en vont, la paix est signée pour longtemps, 1479. Donc les deux souverains, qui ont appris dans leur jeunesse ce que signifiait la défaillance de l'autorité royale et ce qu'il en coûtait de laisser la noblesse prendre le dessus, étant dégagés des contraintes de cette guerre avec les Portugais, la reine, puisque le royaume de Castille qui est en question là pour l'instant, Jean II d'Aragon lui est toujours vivant, la reine, enfin vient de mourir en fait, la reine épaulée par Ferdinand, qui justement vient cette année-là de succéder à son père, Jean II, Juan Sinfé, comme on l'appelait, entreprit donc la remise en ordre du royaume de Castille, qui passait impérativement par la mise au pas de la noblesse, enfin d'une fraction de la noblesse, la partie, disons, turbulente. Le couple royal avait axé son projet politique, qui était novateur, sur une volonté d'unité, notamment la restauration, qui vient de loin, de l'intégrité territoriale qui va les pousser justement à reprendre et achever la reconquête qui se terminera par la chute de Grenade en 1492, date fameuse s'il en est. Quant à l'unité politique, leur union qui était personnelle et même dynastique, puisqu'ils sont deux trastamars, n'y suffisait point, car chaque royaume justement conservait ses institutions, et ses prérogatives, ses lois, etc. Et c'est comme ça que l'Aragon gardait jalousement, et même très jalousement, ses fameuses libertés, ce qu'on appelle les fueros. On aura l'occasion d'y revenir. Donc le jeune couple royal va pallier à cette absence, cette impossibilité d'unité politique en fondant leur monarchie sur une unité religieuse, nouvelle dans la péninsule, et qui se ferait évidemment au détriment des minorités religieuses. Comme c'était en Andalousie, à Séville notamment, que la haute noblesse se montrait particulièrement indocile, eh bien, en se livrant une guerre de clans pour pacifier le royaume, les nouveaux souverains se rendent sur place. C'est encore une pratique médiévale de cette itinérance des souverains. Donc ils se rendent sur place en 1477 et ils vont y rester 1 an et demi. Et ce séjour aura de lourdes conséquences, dont une imprévue au départ, et qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Car la situation, elle aussi, critique des nouveaux chrétiens sévillans, nombreux. C'est cette situation qui allait leur fournir, sans que ça ait été prévu au départ, un instrument capable de vertébrer idéologiquement la monarchie qu'ils avaient entrepris de construire, qu'on appellera une monarchie autoritaire. Les luttes qui opposaient ces grands féodaux, les ducs de Medina Sidonia, le marquis de Cadix, enfin, etc., impliquaient aussi leur clientèle, au sens latin du terme. Et cette clientèle comprenait beaucoup de nouveaux chrétiens, très actifs dans la vie économique et sociale et municipale, gouvernement municipal de la cité. Or, inquiéter les nouveaux chrétiens, cela revenait à toucher les intérêts économiques de la haute noblesse et partant de l'affaiblir politiquement. Car la haute noblesse andalouse était impliquée dans le commerce et dans la finance, avant même la découverte de l'Amérique, des domaines où les juifs et les nouveaux chrétiens excellaient. En général, tous les domaines, ces grands domaines, étaient gérés par des administrateurs, soit juifs, ça a toujours été comme ça tout au long du Moyen-Âge, soit nouveaux chrétiens. Puisque, en fait, les nouveaux chrétiens ont gardé les spécificités de leurs ancêtres, ou d'eux-mêmes, quand ils se sont convertis en personne, juifs. Sauf que, Il y a une carrière formidable à l'époque, quand on parle d'ascenseur social, ce qui est un peu banal, et tout à fait extraordinaire, et sur lequel je pense qu'il y aurait sûrement des choses à faire, c'est l'Église. Évidemment, quand on est juif, on ne peut pas prétendre être évêque. Mais quand on se convertit, on le devient. Et on devient quelquefois de très brillants évêques. On en a de... Bon, je ne veux pas m'engager là-dessus, parce que sinon, je n'en terminerai pas. Mais donc, au fond, ces nouveaux chrétiens, eh bien, ils entrent... Alors, pas tous insincères, hein. La plupart du temps, c'était quand même des gens qui s'étaient convertis sincèrement. Et autour d'Isabelle et de Ferdinand, autour du trône, il y a une quantité de nouveaux chrétiens, y compris dans l'Église, de princes de l'Église, impressionnante. Alors, dès leur arrivée, les souverains qui venaient pour autre chose, bien entendu, sont assaillis par les récriminations du prieur des Dominicains de Séville. Encore une partie du couvent qui existe, mais le reste maintenant se transformait en hôtel international. C'est quand même un comble. Que faisait donc Alonso de Ojeda, pour ne pas le nommer? Il dénonçait une situation qu'il jugeait intolérable. Il y avait décidément trop de conversos à Séville, fortunés, très influents, et qui rejudaïsaient quasiment ouvertement, sous l'œil indifférent des grands seigneurs. Alors, outre l'appel à la conscience royale, l'argument politique était que la reine ne pouvait pas mater l'indiscipline des grands et laisser impunie l'insolence de ces faux chrétiens. La reine en appelle donc au pape, en l'occurrence Sixte IV, qui va l'autoriser par une bulle du 1er novembre 1478. Donc une bulle qui autorise la reine Isabelle, parce que ça concerne le royaume de Castille pour l'instant, à charger un tribunal d'exception d'enquêter sur la foi des suspects. Ça ne concerne pas les juifs. Les juifs sont tolérés. Et l'Inquisition n'a pas le droit de regard sur les juifs, mais sur les mauvais chrétiens, ce qui est autre chose, ceux qui ont été baptisés. Rappelons aussi quand même que c'était exactement l'époque où la reine, justement dans le grand effort de restauration de la monarchie et du royaume, s'efforce de maintenir une certaine distance ou indépendance vis-à-vis de Rome, et notamment en bataillant pour en obtenir ce qu'on appelle le patronato, ou patronato real plus exactement, ce qu'on appelle en français le patronage royal. Or, le privilège, un des privilèges, le principal privilège, attaché à cette régale, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en français, c'était le droit de présentation, c'est-à-dire le droit de présenter des candidats aux dignités ecclésiastiques du royaume, tout simplement pour en finir avec cette plaie qui faisait qu'à Rome, on distribuait les bénéfices, évêchés, archevêchés, parce qu'il y a des rentes substantielles hein, avec tout ça, ce n'est pas purement désintéressé. En général, le pape distribuait ça à ses amis, à ses relations, généralement à sa famille, pas à ses enfants, parce que quand même, mais bon, à ses neveux. Et le résultat était que tous ces revenus partaient à l'étranger, et que ces grands prélats n'étaient jamais présents, donc l'absentéisme avait des conséquences redoutables, effectivement, très néfastes, comme toujours, quand la tête n'est pas là, on sait ce que le reste ne suit pas. Donc c'était vraiment, la reine Isabelle avait même menacé d'expulser manu militari, le premier candidat que lui enverrait le pape. Donc voilà, c'est important ça, vous allez comprendre pourquoi. Cette bulle restera le fondement de ce qui va devenir une institution. Par ce document, le pape accordait aux souverains espagnols le droit de choisir eux-mêmes les inquisiteurs, selon les termes suivants. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très important. Que deux, c'est le pape qui écrit, donc que deux ou trois ecclésiastiques, évêques ou d'un rang supérieur, ou autres prêtres, irréprochables, séculiers ou réguliers, d'ordre mendiant ou non mendiant, que vous estimerez, vous les rois, opportun, dans tel ou tel cas, de désigner dans chaque ville ou diocèse des dix royaumes, donc que ces ecclésiastiques détiennent la même et totale juridiction et autorité, le même pouvoir que détiennent de droit les ordinaires, c'est-à-dire les évêques, du lieu. En ce qui concerne les auteurs des dix crimes, dont évidemment, qui avait été dénoncé dans la demande des rois catholiques, qui est perdue. Donc, on devine la teneur de la demande royale à travers la réponse du pape. Donc, en ce qui concerne les auteurs des dix crimes, leurs complices et fauteurs, car le concept de fauteur d'hérésie est important. L'Inquisition moderne était née, mais personne ne le savait encore. Je vous rappelle, au passage, qu'en Espagne, cette Inquisitio s'appellera aussi Santo Oficio. En fait, c'est une formule abrégée de Officio de la Santa Inquisition, parce que Santo Officio de la Santa Inquisition, c'est redondant. Alors, Saint-Office, en français, tout simplement. Et un spécialiste comme Jean-Pierre de Dieu dit l'Office. avec un O majuscule, toujours. Voilà. Alors, pour des raisons complexes, les monarques attendirent 2 ans avant d'en faire usage. C'est un sujet très intéressant, mais je passe. Je rappellerai simplement que les Cortés de Castille, convoquées en 1480, marquent la fin de la première étape du règne, c'est l'étape vraiment de consolidation. C'est aussi là qu'est reconnu l'héritier du trône, qui vient de naître, qui a d'ailleurs été conçu et qui est né pendant le séjour des rois catholiques à Séville. Hein, comme quoi c'est important. Donc ces Cortés de 1480 marquent la fin de cette première étape et constituent un événement capital dans la consolidation de la monarchie. Les souverains, dont l'autorité s'affirmait très fermement, décidèrent, donc, devant l'agitation malsaine de la cité, parce que précisément au cours de ces 2 années, il s'est passé un certain nombre de choses à Séville où les nouveaux chrétiens ont pris vraiment à la légère la menace, au point de le prendre avec une arrogance insolente. Et vraiment, la ville était en proie à un désordre tout à fait inquiétant. Donc, devant cette situation-là, et se sentant quand même déjà, ils décident tout simplement d'appliquer la bulle qu'ils ont entre les mains depuis le 1er novembre 1478. Aussitôt fait, une première équipe est constituée. Les 2 premiers inquisiteurs, dont je vous passe les noms, nommés par les souverains, puisque c'est eux qui ont le droit de les nommer, étaient des dominicains, bien placés dans leur ordre, étrangers à la région. L'un maître en théologie, l'autre bachelier en théologie. Ils étaient accompagnés de 2 assesseurs, dont un juriste, et une équipe, donc, vous voyez, une équipe réduite, tout à fait comparable à ce qu'on voit au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, d'inquisiteurs seuls, avec 1 ou 2 valets pour les 2 ou 3 personnes pour l'épauler, arrivaient dans un bourg, une bourgade, une agglomération, où on avait signalé un problème d'hérésie. Il arrivait, il allait au premier hôtel, enfin je suppose qu'il posait ses valises, et il faisait tout, c'est-à-dire qu'il faisait enquêter, il interrogeait, il jugeait, il faisait exécuter par la puissance civile. Et puis une fois que tout était réglé, il reprenait, si on n'avait pas assassiné entre-temps, parce que c'est arrivé parfois, il reprenait ses valises et il repartait, il rentrait dans son couvent. Il rendait, je suppose, compte à Rome du travail accompli. Et voilà, et on recommençait quand c'était nécessaire. Et c'est un peu ça qu'on voit arriver à Séville, finalement. Et au fond, c'était ça, normalement, au départ, hein, tout simplement. Je dis une équipe réduite comparable à la pratique médiévale. Ceci dit, dans le décret de nomination, parce que nos deux dominicains, évidemment, reçoivent un ordre royal, dans le décret de nomination, les souverains insistent sur la délégation de pouvoir accordée par le pape à eux. Je cite, j'ai traduit, « Nous vous demandons, écrivent les rois aux 2 dominicains, nous vous demandons d'accepter en toute conscience le dit office qui vous est ainsi confié, par notre Saint-Père et par nous en son nom. Et en cas de désobéissance, ils étaient menacés de lourdes peines et les souverains se réservaient, je cite, le pouvoir de vous retirer le dit office ou charge chaque fois et quand bon nous semblera nécessaire et de vous remplacer et de mettre quelqu'un d'autre à votre place comme cela nous a été conféré par notre Saint-Père. Donc, je vais passer vite là, mais tout de même, ils arrivent à la fin du mois de novembre 1480. À Séville, donc 2 ans après la promulgation de la Bible, ils sont accueillis en grande pompe. Ça, c'est tout à fait contraire au système médiéval, où ils arrivaient très discrètement. Là, ils sont reçus en grande pompe, et toutes les autorités de la ville. Ils s'installent dans le couvent dominicain, qui fut ainsi le premier siège du nouveau tribunal en Espagne. Les services de justice et de police sont mobilisés et à leur disposition. À peine mise en marche, la machine va fonctionner à fond. Les prisons débordent, on ne sait plus où mettre les malheureux incarcérés. Et en quelques semaines, qui, moi, me font froid dans le dos, quand on voit le nombre de personnes, de procès qui malheureusement ont disparu, on n'a pas conservé ces premiers procès, les archives de Séville, si un jour on pouvait les retrouver, ça serait vraiment extraordinaire. Mais bon, ça c'est un peu, c'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. On le voit paraître et réapparaître, mais bon, mais c'est vrai, c'est tout à fait, ça serait vraiment très intéressant. Un premier auto d'affé, vous vous rendez compte, ils arrivent à la fin novembre. Un premier auto d'affé a lieu le 6 février 1480. Autrement dit, en 2 mois, ils ont instrumenté à tour de bras. Et le 6 février 1481, a lieu le premier auto d'affé avec les 6 personnes brûlées qui sont 6 personnalités du gouvernement, pratiquement municipal ou de la vie économique de la ville. Cette fois-ci, les nouveaux chrétiens, là, commencent à comprendre qu'il ne s'agissait plus du tout... l'heure n'est plus à l'ironie, loin de là. Dès l'arrivée des inquisiteurs, des familles entières, prises de panique, eh bien, qu'est-ce qu'elles font ? Le Moyen-Âge est encore là. Ils vont se réfugier sur les terres des seigneurs, justement de cette haute noblesse que 3 ans auparavant, les rois étaient venus mater. Alors là, vraiment... Les inquisiteurs réagissent avec une violence et une assurance étonnantes, moi qui, à chaque fois, je suis quand même, quand je relis le texte, je suis sidérée. Dans une longue mise en demeure du 2 janvier, c'est-à-dire un mois avant l'autodafé, les inquisiteurs enjoignent à ces grands seigneurs, de par notre autorité qui est en vérité apostolique et royale, non seulement de ne point avoir l'audace, c'est le terme, de donner asile aux fugitifs, mais de les arrêter eux-mêmes et de les remettre au tribunal, et en plus à leurs frais, sous peine d'excommunion majeure et de toutes les conséquences, car excommunication majeure avec toutes les conséquences qui, nous, ça nous fait un peu, excommunication, on parle toujours, pas du tout, c'était très lourd de conséquences, mais je n'en dirai pas plus, je n'ai pas le temps. Et il terminait cette lettre adressée à un grand d'Andalousie, mais qui s'adressait à toute la noblesse d'Andalousie. « En outre, écrivent les inquisiteurs, nous procéderons contre vous par toutes les voies et recours possibles du droit, comme fauteurs d'hérésie, receleurs, défenseurs, protecteurs et dissimulateurs d'hérétiques. » Voilà, donc ces deux inquisiteurs d'un genre nouveau, qui sont de simples moines, même s'ils sont prieurs dans leur... s'adressaient ainsi à la plus haute et la plus puissante noblesse du royaume, en la rappelant à ses devoirs. Leur insolence inouïe, de toute façon, est inconcevable, à mon avis, sans l'assentiment au moins tacite des souverains. Alors, ce premier tribunal fit preuve d'une telle rigueur que, dès la fin de l'année 1481, parce qu'il y a eu le premier autodafé, mais il y en a eu plusieurs dans l'année, une délégation de victimes va présenter les doléances de la communauté, enfin, si je peux dire communauté, c'est pas le mot, mais devant la curie. Sous leur pression, c'est aussi complexe là, hein, il y a des pressions de toute nature, Sixte IV adresse à son tour une lettre au souverain, enfin, espagnol, 3 ans après l'octroi de la bulle. C'est une réprimande datée du 29 février 1482, une réprimande dont les termes sont sans équivoque. Le pape regrettait explicitement la concession de 1478 et il essayait de faire marche arrière. Je vous passerai les détails parce que sinon on ne parlerait que de ça. Il tentera en vain d'en amoindrir la portée. Pendant ce temps, les inquisiteurs à Séville, comme si de rien n'était, continuent leurs tâches. Alors, on assiste là à un ballet politique assez passionnant, mais très complexe, entre Rome et la cour d'Espagne, car le pape subissait les pressions contraires, évidemment, non seulement des nouveaux chrétiens qui venaient plaider leur cause, qui se disaient évidemment innocents de ce dont on les accusait, ça va sans dire, mais aussi les souverains faisaient pression. Donc le pauvre Sixte IV, en plus, Sixte IV face à Ferdinand d'Aragon, hein, quand même. Dans ce contexte-là, Ferdinand trouve quand même le moyen de demander au pape et d'arracher au pape le droit d'étendre cette nouvelle inquisition qui déjà est très critiquée pour l'étendre à ses propres domaines. Disons pour simplifier que dans cette lutte d'influence, la jeune monarchie finit par l'emporter. En mai 1483, le pape délègue même à l'archevêque de Séville le droit de juger les appels en matière d'inquisition. C'est un droit qui lui était à lui réservé jusqu'alors. C'est pour ça que nos nouveaux chrétiens étaient allés devant la curie porter plainte. Et bientôt, le conseil d'inquisition, dont j'ai bientôt vous parlé, prendra le relais. Ça, c'est très important. Autrement dit, on ne peut plus faire appel au pape. Hein? Et pendant ce temps, l'inquisition, forte de la pluie royale, eh bien, elle prend de l'ampleur, elle se dispose à occuper l'ensemble du territoire et à durer. Parce que cette équipe qui, normalement, selon le système médiéval, devait, une fois qu'elle aurait assaini la ville de Séville, eh bien, refaire ses bagages et repartir, et pas du tout. Là, non seulement elle va rester, mais j'allais dire, elle va rester 355 ans quand même. C'est long. Hein? Alors, à Séville, en 1480, là, nous assistons à quelque chose. En fait, ce qui commence, sans que personne ne le sache, en 1480, nous le savons, mais nous sommes intelligents, commençait une très longue histoire. L'enquête menée par nos deux premiers dominicains a un rythme effréné. À mon avis, ils n'ont pas dû dormir beaucoup pendant ces quelques mois. Révéla des ramifications insoupçonnées dans les milieux des nouveaux chrétiens. Évidemment, c'était des familles qui se connaissaient, et en l'occurrence, des mauvais chrétiens. Des ramifications dans tout le royaume. Alors du coup, on alerte les rois sur l'ampleur insoupçonnée du danger. L'équipe inquisitoriale non seulement ne quitte pas la ville, mais elle s'y installe. Alors, la bulle de 1478 autorisant les souverains à nommer des inquisiteurs quand et où bon leur semblerait autant de fois que vous l'estimerez nécessaire, eh bien, la nouvelle inquisition va essaimer très rapidement au point de couvrir en quelques années l'ensemble des deux couronnes. Je ne peux pas développer ce point-là. Je dirais qu'après pendant une quinzaine d'années, on assiste à une prolifération, à un éparpillement. On atteint même 23 tribunaux pour le royaume de Castille. Après, il y a un phénomène de regroupement et de contraction draconien pendant encore 15 ans. Ça nous mène à 1510. Et ensuite, un redéploiement modéré qui commence en 1510 et qui se continue pendant une partie du XVIe siècle. La répartition géographique se stabilise définitivement, mais l'essentiel est déjà acquis dès la fin du XVe. Disons qu'au bout du compte, la couronne de Castille va compter 9 tribunaux péninsulaires. Et au cours du XVIe siècle, seront créés en 1569 les tribunaux américains de Lima et de Mexico, c'est-à-dire un par vice-royauté, et en 1610, celui de Cartagena de Indias pour décharger celui de Lima. Tous ces tribunaux dépendaient directement du Conseil d'Inquisition dont vous ne savez encore rien théoriquement. Ces tribunaux, ça c'est très intéressant parce que les tribunaux, il y a eu des tribunaux très importants, il y en a eu de moins importants, selon les lieux, enfin les personnalités aussi. Et du plus petit tribunal au plus important, comme celui de Tolède par exemple, eh bien, il n'y avait aucun système hiérarchique de tribunal à tribunal. Tous ces tribunaux-là étaient indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'un tribunal ne pouvait pas influer sur un autre tribunal. Chacun de ces tribunaux, le petit ou le grand ou le moyen, tous dépendront du conseil qu'on va bientôt voir apparaître. Alors, un mot sur l'instauration de l'Inquisition dans la couronne d'Aragon, qui est en soi un vaste sujet, passionnant. J'en en dirai que l'essentiel, enfin à peine d'ailleurs. La bulle de 1478, quand vous la lirez dans le latin d'église que vous avez sous les yeux, ne concernait que la couronne de Castille. Or, Ferdinand a très vite compris, c'est pas pour rien que Machiavel a érigé en modèle du prince moderne, il a très vite compris que ce nouveau type d'inquisition, on pouvait en tirer parti. C'est pourquoi il demanda, je viens d'y faire allusion, très vite à Rome, l'autorisation de l'étendre à ses propres états. Alors là, il y a des mois de joutes diplomatiques très compliquées que je passe. Le Saint-Père finira par céder en avril 1482. Ferdinand, d'ailleurs, avait anticipé, il avait déjà nommé des inquisiteurs avant. Mais bon, c'est... Alors, il y avait un petit problème, c'est que les Aragonais, qui n'étaient pas très contents de voir ça, ils disaient, mais non, merci, une nouvelle inquisition, non, merci, on en a déjà une, on a l'inquisition médiévale. Elle n'a pas été abolie. Elle existe toujours, en théorie. Oui. Alors après, donc, tout cela, Ferdinand parvient à ses fins. Mais l'extension de la nouvelle Inquisition à ces territoires aragonais fut problématique. Et elle se fit dans la violence. Car elle menaçait, outre les intérêts d'une oligarchie nobiliaire et bourgeoise qui comptait bien sûr de nombreux nouveaux chrétiens, elle menaçait les sacro-saintes, ils avaient bien compris, eux, les Aragonais, et Ferdinand aussi d'ailleurs, les sacro-saintes libertés, ou fueros aragonais. Ferdinand va mettre 3 ans, parfois militairement, à vaincre les réticences locales. Une résistance qui va prendre un tour tragique à Saragosse, où l'inquisiteur Pedro de Arbues, on voit d'ailleurs l'endroit où, dans la CEO magnifiquement restaurée, où l'inquisiteur Pedro de Arbues a été assassiné dans la nuit. Alors là, ça fait un merveilleux film, n'est-ce pas? Il est assassiné dans la nuit du 13 au 14 septembre 1485, à minuit à peu près, alors qu'il est en prière, donc devant l'autel, mais il avait pris la précaution de mettre une cotte de maille sous le surplis. Mais malgré tout, la violence des tueurs étaient tels que ça n'a pas servi à grand-chose. D'ailleurs, Pedro de Arbues, sa mort est accompagnée immédiatement d'un miracle, puisqu'son sang se met à bouillonner dès le lendemain sur les... Enfin bon, il a été canonisé. Mais ce n'est pas lui le patron du Saint-Office. C'est Pierre de Vérone. C'est un inquisiteur lombard, justement, assassiné au XIIIe siècle, qui sera donc le patron de l'Inquisition et qui deviendra le patron de la confrérie inquisitoriale, très important, en Espagne. Donc malgré ces soubresauts, la couronne d'Aragon fut elle aussi donc investie avant la fin même du siècle par la nouvelle Inquisition. Ainsi, l'Inquisition moderne, la royale, occupait-elle le bastion aragonais de l'ancienne inquisition, la pontificale, qui de ce fait disparaissait. Alors le grand vainqueur, comme je le disais, c'était Ferdinand. Il était venu à bout des réticences du pape et de ses propres sujets, ce qui était quand même pas mal. Outre les trois tribunaux péninsulaires, il imposa, non sans mal, l'inquisition aux Baléares, mais surtout dans ces domaines italiens où ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une tentative en Sardaigne, en Sicile, où les insurrections, je crois, n'ont jamais cessé pratiquement tout au long même du XVIe siècle. Alors, la multiplication des tribunaux exigea bientôt une direction commune qui n'avait pas existé dans l'inquisition médiévale. Et le pape et le roi, pourtant en plein conflit, s'accordèrent sur ce point. Tous les tribunaux seraient placés sous l'autorité d'un inquisiteur général, un inquisiteur général. Et par pitié, pas de grand inquisiteur, et je le vois apparaître de plus en plus en espagnol, dans les livres espagnols. Je trouve que cette formule hugoliade est ridicule. En plus, masque les choses. Jamais vous ne verrez gran inquisidor dans les textes de l'époque. C'est el señor inquisidor general. Et ça lui suffit amplement. Vous allez voir. Alors, la simple verticalité du système médiéval, où l'inquisiteur ne dépendait que du pape, se compliquait singulièrement dans sa version moderne. La bulle initiale confiait au roi le soin de nommer, ou le droit de nommer, les inquisiteurs de base, du rang, si vous voulez, ce qui étaient les seuls prévus au départ. L'apparition de cette nouvelle fonction de l'inquisiteur général semblait donc réduire ce droit à néant, car le pape, et en fait il ne pouvait pas faire autrement, se réservait le droit de nommer l'inquisiteur général, qui lui nommerait les inquisiteurs du rang. Alors après maintes tractations, dans laquelle Ferdinand déploya aussi tout son savoir-faire, Sixte IV et Ferdinand s'accordent donc sur la solution suivante, qui est assez géniale, et qui se situe justement dans l'optique du patronage royal. Le pape nommerait l'inquisiteur général par bref pontifical, mais à partir d'une liste de trois candidats, la terna, que le roi d'Espagne lui présenterait. Donc l'honneur de Rome était sauf, bien entendu, et la couronne espagnole réservait ou conservait l'essentiel, c'est-à-dire le vrai pouvoir, celui de choisir les candidats, d'en faire ce qu'en espagnol on exprime à l'époque par le mot hechura. Sus hechuras. Alors, créature en français, ça tend à faire un peu faux sens. Mais le mot hechura, hein, c'est vraiment ça. En faire, c'est créature. Quand Charles Quint rappellera à l'ordre Fernando de Valdés, lorsqu'il ne voudra pas cracher au bassinet parce qu'il faut des fonds, parce que la guerre avec la France reprend, ça se terminera par Saint-Quentin, mais bon, personne ne le savait au départ, eh bien Charles Quint écrit donc à cet inquisiteur, quand même, trois fois de suite, tout le monde paye, mais vous pas, et vous êtes mi hechura. Donc il rappelle qu'il est sous hechura, il utilise ce mot. Alors nommé, je reviens à notre époque antérieure, nommé par le pape, l'inquisiteur général détenait ce qu'on appelle une autorité apostolique. Et par délégation, tous les inquisiteurs qu'il nommerait, car c'est l'inquisiteur général qui va nommer tous les inquisiteurs. Donc, la tête comme la base détient cette autorité apostolique, ce qui était d'ailleurs parfaitement inscrit dans leur titre, qui est Nos, sur tous les documents, Nos los inquisidores apostolicos de la heretica praveda, ta 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 ta. Ainsi, l'ambiguïté de sa position fera sa force. Choisi par le roi, mais nommé par le pape, l'inquisiteur général échappait en partie au contrôle monarchique. Quand le roi voudra s'en défaire, eh bien, il n'aura d'autre recours que de le pousser à démissionner. Et il y a eu des cas. Et à chaque fois, c'est assez intéressant, mais bon. Aussi, tout se jouait-il dans le choix du roi, qui proposait des candidats convenants à sa politique, surtout le premier de la liste, car, bien entendu, le pape se contentera, en général, d'entériner, de ratifier la proposition royale. Donc, il fallait vraiment savoir qui on mettait en tête de liste, parce que c'était lui qui était, évidemment, qui devenait inquisiteur général. Donc, le choix du roi, là, il est fondamental. Comme le souligne un spécialiste des structures administratives du Saint-Office, Roberto López Vela, l'inquisiteur général, je le cite, était, j'ai traduit, un personnage de la plus haute envergure parmi les cadres politiques qui tiraient les fils de la monarchie catholique. C'était sans aucun doute, en termes juridictionnels, une des figures les plus autonomes. Autrement dit, je reprends l'adjectif de l'auteur, Roberto López Vela, un grand connaisseur de la question, autrement dit, un pouvoir littéralement formidable. L'inquisiteur général va devenir le personnage le plus important de la monarchie, pratiquement après le roi. Avant même le président du Conseil royal, qui était généralement un évêque, alors que l'inquisiteur général était souvent cardinal, mais à tout le moins archevêque, et généralement archevêque de Séville, ou de Tolède, ou de Séville, c'est-à-dire les deux pratiquement à égalité, les deux grands archevêchés. Les inquisiteurs généraux furent, notamment au XVIe siècle, si j'ai le temps, je pourrais vous en donner une illustration, de très puissants personnages, à la fois princes de l'Église et hommes d'État. C'est pourquoi le grand inquisiteur à la Hugo, hugolien, ce n'est pas nécessaire. Rappelons que la régence du royaume fut confiée à plusieurs reprises, au XVIe siècle justement, à un inquisiteur général. Le cardinal Cisneros, qui fut un des premiers inquisiteurs, a été régent de Castille deux fois. Adrien d'Utrecht, un flamand, avant de devenir pape, était inquisiteur général, était aussi chargé de la régence du royaume en l'absence du nouveau souverain. Et le cardinal, dont j'espère pouvoir vous parler un peu plus longuement après, Juan Pardo de Tavera, qui assurera la régence pendant les absences, avec deux autres, mais ce sera la tête principale de la régence pendant les absences de Charles Quint. Rappelons aussi qu'au niveau protocolaire, on disait ou on écrivait, quand vous prenez les documents, par exemple, vous voyez les petites notes dans le haut, « su excellencia presente ». Voilà. C'était « su excellencia » ou « su alteza ». Voilà, c'est ça un inquisiteur général. Donc, ce n'était pas la peine de lui parler du grand inquisiteur. Il était par ailleurs la colonne vertébrale de l'Inquisition, dont l'organisation reposait entièrement sur lui. Tous les cadres supérieurs de l'institution, c'est-à-dire les inquisiteurs, notamment eux, non, de district, étaient directement nommés par lui et dépendaient en tout de lui. La révision des procès, les appels, justement, que Rome avait délégués à l'archevêque de Séville, eh bien cet appel, le seul appel possible maintenant en matière d'inquisition, c'est l'inquisiteur général. Autrement dit, pour faire appel contre la machine inquisitoriale, on n'a qu'un recours, c'est l'inquisiteur général. Ça donne quand même une petite idée de la puissance de l'institution. Les commutations de peine, tout ça, ça passe par lui, via le conseil d'inquisition. Et on voit souvent sur les documents du quotidien de la suprême, qui sont si précieuses, ces archives, on voit toujours, bien sûr, sur excellenza presente. Hein, et même à 24 décembre, j'ai vu travailler même le jour de Noël en plus. Soulignons enfin que l'inquisiteur général tenait de ses origines médiévales et pontificales, de son tribunal, une juridiction, c'est-à-dire une autorité, un pouvoir, supérieur à toutes les autres juridictions, civiles ou religieuses. Ça lui permettait donc d'instrumenter contre n'importe qui. On s'était même posé au Moyen-Âge, enfin au XIVe siècle, j'y reviendrai peut-être en passant, est-ce que l'inquisition pouvait instrumenter contre le pape ? Si le pape était suspect d'hérésie, après tout, ça peut arriver. Donc, ça lui permettait donc d'instrumenter contre n'importe qui, y compris la hiérarchie ecclésiastique, et le procès de l'archevêque de Tolède, Bartolomé Carranza, en sera la tragique illustration. Là aussi, si j'ai le temps, j'en parlerai, mais bon. Le premier inquisiteur général du royaume de Castille fut le dominicain Tomás de Torquemada. On l'a déjà, je crois, cité. Il est nommé inquisiteur général en 1483 par Sixte IV. Trois ans plus tard, il est également nommé inquisiteur général pour la couronne d'Aragon. Ça, c'est pas anodin, parce que l'ensemble de l'institution était placé donc dès 1486. Alors, il y a eu, pendant les années qui ont suivi, il y a eu quelques... je passerai sur les détails. Bon, il y a eu une parenthèse où il y a eu deux inquisiteurs généraux lorsque Ferdinand d'Aragon, lorsque la Castille a failli être séparée à nouveau de la couronne d'Aragon de la couronne de Castille. Mais bon... Ça, c'est un détail sur lequel je passe. Donc, l'ensemble de l'institution, à partir du moment où Tomás de Torquemada est nommé inquisiteur général pour les deux couronnes, l'ensemble de l'institution de l'inquisition était placé sous une même, seule et même direction. L'institution constituerait dorénavant une instance commune aux deux couronnes, la seule et unique au cours de l'histoire, devant laquelle la barrière des fueros tomberait. Et il y a un cas, évidemment, il n'y en a pas des quantités non plus, n'exagérons pas, mais il est un cas célèbre où le roi Philippe II aura recours justement à cet artifice contre son secrétaire Antonio Pérez. J'y reviendrai là aussi si j'ai le temps. Donc en 355 ans d'existence, il y eut au total 47 inquisiteurs généraux, dont seulement 8 réguliers d'ailleurs. Vous voyez quand même le rapport, 47, 8. 8 réguliers, 6 dominicains, 1 franciscain et 1 jésuite, le fameux Nitard. Enfin bon, ça c'est un peu une exception finalement. Donc sur ces 47-là, il y en a 13, dont le dernier d'ailleurs, qui n'ont pas eu le temps d'entrer en fonction parce qu'ils sont morts juste au moment où ils les nommaient ou dans les semaines qui ont suivi, donc ils ne comptent pas, ils n'ont pas laissé de traces. Donc il y en a eu 34 qui ont exercé effectivement leur fonction, hein, sur les 350 ans, 355. Et sur ces 34-là, il y en a quand même 16 qui ont démissionné. Alors, les inquisiteurs généraux les plus prestigieux, les plus importants et les plus redoutables aussi, appartiennent à la fin du XVe et au XVIe siècle, à commencer par le premier d'entre eux, le dominicain Tomás de Torquemada, qui fut inquisiteur de 1483 à 1498, qui a posé les bases juridiques, et dont on a fait une figure, quand on parle de Torquemada, là, ça devient épouvantable. En fait, c'est l'exemple même, très intéressant d'ailleurs, du fonctionnaire. C'est ça, c'est vraiment un fonctionnaire. Un fonctionnaire comme hélas, on en a vu dans un autre contexte, un fonctionnaire impitoyable, mais rien de flamboyant chez Tomás de Torquemada. Et ce qui est bien dommage, je le dis en passant quand même, c'est que Tomás, la sulfureuse réputation qu'il a eue, du moins pour les gens ordinaires comme moi, enfin comme beaucoup d'entre nous, eh bien masque le fait que son oncle, Juan de Torquemada, a été véritablement un des grands théologiens en Europe. Alors, Juan de Torquemada, tout le monde ignore qui c'est. C'était aussi un dominicain. Donc, avant Tomás, il y a eu Juan, et je pense que Juan, qui a pris quand même une position, justement, dans cette polémique contre les nouveaux chrétiens, une position tout à fait admirable. On se demande même comment il a pu avoir un neveu comme ça. Mais bon, otros tiempos, sans doute. Alors, je citerai rapidement, parce que, bon, mais pour vous donner quand même une idée, le dominicain, je ne vous donne pas la liste de tous ceux qui ont, parce qu'il y en a justement qui n'ont même pas eu le temps de prendre leur fonction. Donc, après Tomás de Torquemada, je citerai Diego de Deza, qui a joué un rôle très important, lui aussi, qui était très près du roi, un dominicain aussi, mais qui va démissionner pour dans des circonstances très intéressantes sur lesquelles je suis obligée de passer. Ensuite, le cardinal Cisneros, un franciscain, donc archevêque de Tolède, grand humanisme. Humaniste, admirateur des races, fondateur de l'université d'Alcalá de Henares tout de même, auteur de la fameuse Biblia Complutense, régent de Castille à deux reprises, hein, tout de même, bon, inquisiteur général. Le flamand Adrien d'Utrecht dont je vous ai parlé, qui a cessé d'être inquisiteur général parce qu'on l'a élu pape, pour son malheur d'ailleurs. Alonso Manrique, 1523-1538, grand seigneur, fils du célébrissime poète Jorge Manrique. Il fut le puissant protecteur d'Erasme en Espagne, alors qu'Erasme était condamné ailleurs, à commencer par la Sorbonne. Malheureusement, Manrique a suivi la cour, finalement. Il est tombé en disgrâce très rapidement, hein, en 1529, autrement dit, il a été inquisiteur général effectif pendant 6 ans. Après, il a été vraiment mis, disons, marginalisé, mais on ne lui a pas retiré le titre, il a conservé le titre, mais il a cessé ses fonctions, qui furent reprises, justement, donc, par le suivant, qui est Juan Pardo de Tavera, qui est un personnage très intéressant, dont je vous reparlerai peut-être tout à l'heure. Fernando de Valdés, alors là, c'est le tournant très idéologique, très dur qui a été pris. Fernando de Valdés est tout le contraire d'un humaniste, par contre. C'est même un ennemi féroce de ce courant-là. Mais par contre, c'est le grand réformateur. Je crois que certains d'entre nous ont eu l'occasion de le côtoyer de près il y a quelques années pour le concours d'agrégation, parce que voilà ce qu'on veut, l'agrégation d'espagnol quand même. Hein. Voilà. Bon. Alors, Fernando de Valdés, disons, la fourchette chronologique du programme, ça s'arrêtait en 1561, précisément, parce que c'est la date de la réforme valdésienne qui a été extrêmement importante pour l'institution. D'ailleurs, c'est une réforme qui était tellement solide qu'elle a duré jusqu'à l'abolition du tribunal. Je citerai également les deux derniers, Diego de Espinosa, Gaspar de Quiroga, j'aimerais bien pouvoir vous en parler aussi, mais parce qu'ils sont très intéressants, et ils couvrent à eux deux, 1560, si je prends les deux, hein, 1566-1594, c'est-à-dire les deux tiers du règne de Philippe II, tout simplement. Alors ça, ce sont des personnages aussi vraiment très intéressants. Alors, le choix d'un nouvel inquisiteur général, on vient d'y faire allusion, par le monarque, puisque c'est lui qui choisit, est aussi révélateur d'un changement de la ligne générale de politique. On prenait l'exemple qu'on vient de citer, c'est-à-dire sous Charles Quint. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte, j'allais dire international aussi, l'évolution de la réforme en Europe, hein, bien sûr. Charles Quint étant empereur est confronté au problème. C'est le passage, sous Charles Quint, d'un inquisiteur général comme Alonso Manrique, qui a vraiment été le protecteur d'Erasme en Espagne. Et d'ailleurs, l'œuvre d'Erasme est parue avec, quand même, c'est assez extraordinaire, une lettre de recommandation de l'empereur, bon, c'est vrai, arraché par Alonso de Valdés, probablement. Alonso, c'est pas le même, faut pas confondre les deux, hein, il ne serait pas content. Et puis en plus, donc les armes de l'inquisiteur général, c'est tout à fait étonnant. Donc quand on passe d'Alonso Manrique, un homme, alors Tavera entre les deux, mais à un homme comme Fernando de Valdés, là vraiment on s'aperçoit qu'il y a, disons, ça tourne autour des années 1540, un durcissement idéologique qui se manifeste précisément dans le choix par l'empereur, qui n'était pas particulièrement intolérant non plus. C'est pas un homme férocement intolérant, Charles Quint. Alors je vous donnerai simplement, parce que j'espère pouvoir y revenir, l'exemple d'une carrière aussi politique qu'ecclésiastique, puisqu'on parle de Fernando de Valdés. Fernando de Valdés, c'est un juriste dans l'âme, vraiment un juriste. J'ai toujours dit, Valdés, c'est une main de fer sans le gant de velours. Dites vraiment ça. Il est né la même année que Luther, quand même, il y a des coïncidences, hein, comme ça, 1483. Mais voici, en deux mots, son curriculum. En 1523, il est nommé gouverneur de la Navarre pour ses talents d'administrateur. Justement, il y avait beaucoup à faire. L'année suivante, il est conseiller de la Suprême. Alors, la Suprême, vous savez ce que c'est, mais on va en parler, du Conseil d'Inquisition. En 10 ans plus tard, 1535, il est président de la chancellerie de Valladolid. Pas rien. 4 ans plus tard, 1539, il est président du Conseil royal. 1546, c'est-à-dire 7 ans plus tard, il devient archevêque de Séville après plusieurs archevêchés intermédiaires. Et en 1547, il est inquisiteur général et donc président du Conseil d'Inquisition. Voilà donc un homme qui va passer de la présidence de la chancellerie à la présidence du Conseil royal et à la présidence du Conseil d'Inquisition. Alors, je veux vous dire un mot maintenant quand même d'un organisme capital dans cette affaire-là, c'est évidemment le Conseil d'Inquisition. L'inscription, si vous voulez, de l'Inquisition moderne espagnole dans la polysynodie de la monarchie. Voilà un beau mot, tout à fait chic. Alors, les premiers trastamars avaient instauré, c'est les premiers trastamars qui ont fait quand même, les tout premiers, qui malheureusement sont morts trop tôt pour certains d'entre eux, qui ont fait un travail tout à fait remarquable. Donc les premiers trastamars, dont entre la fin du XIVe et le tout début le début du XVe, avaient instauré un système de gouvernement qui sera propre à la monarchie espagnole, c'est ce qu'on appelle le système polysynodique. C'est facile à comprendre, synode, synodique, hein, synodal, bon. Poly, plusieurs, voilà. Donc, ça consiste à gouverner en s'appuyant sur les conseils, sur des conseils, avec un C majuscule, consejos, de plus en plus spécialisés, et qui vont constituer en Castille, dès le XVe siècle, les grands rouages de l'administration. Alors, le mérite revient au roi catholique, non pas d'avoir créé, ça existait déjà, mais d'avoir énormément perfectionné ce système, qui, à la fin de leur règne, avait atteint, on peut dire, son plein développement. Autrement dit, les premiers Habsbourg, commencé par Charles Quint, ils n'auront plus qu'à compléter l'ouvrage. Alors, le Conseil royal reste l'instance suprême en matière de gouvernement, justice, etc. Et il revenait au président du Conseil royal, en général un ecclésiastique de haut rang, un évêque la plupart du temps, de présider les Cortes, ce qui est quand même très important. Et la spécialisation de ces grands conseils va entraîner leur multiplication, justement, au gré des besoins suscités par l'évolution, ce qu'on appelle un État moderne, dont la gestion devient de plus en plus complexe. Donc des conseils ont été créés en fonction des grandes composantes géographiques, Conseil des Indes en 1511, Conseil de Navarre en 1515, Conseil d'Italie, enfin, etc. Et d'autres conseils, d'ailleurs en général antérieurs, le furent en fonction d'une activité spécifique. Conseil des Finances, Conseil de la Guerre, je ne dis pas Conseil de Guerre parce qu'en français c'est ambigu, Consejo de Guerra, et d'autres jusqu'au Conseil d'État qui est une création, disons, suprarégionale, créée en 1526 par Charles Quint, qui est commun à tout l'Empire et qui a la particularité suivante, c'est le roi en personne qui en est le président. Et ce Consejo de Estado, pareil, Conseil d'État en français, bon, c'est Consejo de Estado, était chargé donc des grands problèmes de la politique extérieure à l'époque où justement l'Espagne se retrouve au sein d'un immense ensemble politique. D'ailleurs, ce ne sera pas anodin de voir que le cardinal Tavera, inquisiteur général, fera partie du Conseil d'État, ce qui est quand même très révélateur. Or, l'un de ses premiers conseils, au plan chronologique comme au plan hiérarchique, ce sera le Conseil d'Inquisition. Sa création représente, après la bulle, dont vous allez savourer tous les termes, sa création représente le deuxième pas décisif de ce que l'on a appelé, je cite un historien espagnol spécialiste de l'Inquisition, le processus d'étatisation du Saint-Office. Il est créé, alors il semble avéré maintenant que ce soit 1488, mais il y a eu débat si c'était 1484, enfin bon, peu importe. Donc en 1488 est créé le Real Consejo de la Suprema y General Inquisición, avec une majuscule à chaque mot. Ce que l'on va abréger en Suprema, qui sera traduit, c'est entré dans le littré, c'est en suprême, avec un S majuscule bien entendu, et au féminin bien entendu. Donc la suprême allait jouer un rôle capital dans le développement et le fonctionnement du Saint-Office. Pour aller vite, alors quand vous avez été à ces conseils, vous imaginez, vous, l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée, non, pas du tout, du tout ces conseils, tous d'ailleurs, c'est pas propre à l'Inquisition. Le conseil d'Inquisition, c'est 3 conseillers. On arrivera à 5 quand il y aura le problème avec les protestants. Normalement, c'est 3 conseillers. Alors qu'on les appelle en espagnol, consejeros, jueces ou oidores. Il y a en plus un procureur, je traduis par procureur, mais c'est un fiscal del consejo, qui assiste l'inquisiteur général, un rapporteur, un relator, 2 secrétaires, dont un nommé par le roi et un nommé par l'inquisiteur général, un personnel subalterne, alors là, dont un qui est cher à notre cœur, un archiviste. Ben oui, c'est grâce à lui que nous avons conservé les merveilleuses archives du Consejo de la Suprema, parce que les archives des tribunaux périphériques ont pour la plupart, sauf Cuenca, disparu, pratiquement. Il reste des bribes par-ci par-là. Alors la chance, c'est que justement, à la Suprême, quand on recevait les courriers des tribunaux, on recopiait quasiment. Et lorsque la Suprême répondait au tribunal périphérique, enfin au tribunal de base en quelque sorte, ils notaient sur la lettre qu'ils avaient reçue et qui est conservée dans les archives, l'inquisition générale conservait donc ce document et notait en résumé la teneur de sa réponse. Alors si on n'a pas la réponse parce que ça a été perdu avec les archives locales, eh bien on a, c'est donc l'archiviste, là vraiment, oui. Bon. Tout ce personnel-là était renouvelé systématiquement lorsqu'un nouvel inquisiteur général arrivait. Alors, hormis le procureur, qui est nommé directement par l'inquisiteur général, chaque membre du personnel, alors là c'est le contraire, chaque membre du personnel était nommé à partir d'une liste de 3 noms, toujours cette fameuse liste de 3 noms. Mais là c'est le contraire. La liste, elle est établie par l'inquisiteur général qui préside le conseil. Normalement, au départ, si vous voulez, la fonction de président du conseil d'inquisition et la charte d'inquisiteur général, ce n'était pas nécessairement la même. Mais je crois qu'à une petite exception près, sans importance, ça a toujours été l'inquisiteur général qui a présidé le conseil d'inquisition. Donc, l'inquisiteur général, en tant que président du conseil, prépare une liste de 3 personnes pour chaque poste qui se libère, et le roi choisit parmi ces 3 noms. Ensuite, l'inquisiteur confère le poste à l'élu, mais il le fait motu proprio, comme si le roi n'intervenait pas dans ce choix. C'est quand même subtil tout ça. Alors, les inquisiteurs généraux, les conseillers, tous ces gens-là, d'où venaient-ils? Eh bien, ils étaient formés dans les universités et plus encore dans les colegios mayores, où tous les hispanistes savent bien entendu ce que sont ces colegios mayores. C'est là que se formaient tous les grands cadres de l'État. Alors, la plupart des conseillers de la Suprême étaient des ecclésiastiques. Souvent des inquisiteurs chevronnés. Le rêve de l'inquisiteur de base, c'était de devenir un jour conseiller de la Suprême. Et le rêve des conseillers de la Suprême, c'était de devenir inquisiteur général, bien entendu. Donc, la plupart des conseillers, c'était des ecclésiastiques, mais souvent et surtout d'éminents juristes. C'était ça, finalement, le plus important. On est loin, là, de notre inquisition médiévale. Une forte connexion s'est établie entre le Conseil royal et le Conseil d'Inquisition, avec une tendance croissante au XVIe siècle. On voit comment ça se lit tout ça. Il y a une tendance qui se développe au XVIe à désigner. Alors vous voyez, l'inquisiteur général, il est à la tête du Conseil d'Inquisition. Mais il sera de plus en plus également conseiller, membre donc, du Conseil royal. Et inversement, le président du Conseil royal sera conseiller du conseil d'inquisition. Vous voyez, c'était cette articulation fort intéressante. Alors, le conseil d'inquisition, c'est un organisme collégial comme tous les autres, comme tous les conseils, bien entendu, mais il s'en distingue. Il est tout à fait différent des autres, tout simplement par le caractère apostolique de son président, l'inquisiteur général. Le président du conseil d'inquisition a cette différence spécifique. Et contrairement au président des autres conseils, que ce soit le conseil, même le conseil royal ou tous les autres conseils, son président, l'inquisiteur général, ne dépend pas exclusivement du souverain, mais aussi du pape. Il était donc, grâce à sa juridiction spéciale, beaucoup plus qu'un simple primus inter pares parmi les conseillers, contrairement aux autres conseils, à ce qui passait dans les autres conseils. La suprême, elle, ne dépendait pas de Rome, parce que c'est un organe administratif et politique qui constitue un rouage de ce vaste système polysynodique par lequel la nouvelle monarchie s'était structurée. Alors, l'existence de rapports juridiquement ambigus entre les membres de la suprême, qui sont des agents de l'administration royale, et leur président, qui tenant son autorité du pape, ne dépendait pas, en théorie du moins, du monarque, cela distinguait fortement le conseil d'inquisition des autres conseils. Mais l'inquisiteur général, qui nommait tous les membres du conseil sauf un secrétaire, évidemment, dominait le conseil. Il y a assez rarement eu de divergence au sein du conseil. Autrement dit, le conseil d'inquisition, dont toute la machine va dépendre bientôt et de plus en plus étroitement, le conseil d'inquisition présentait, comme toute l'institution, un caractère mixte, sinon ambigu, car rouage de la mécanique polysynodique du gouvernement, il était à la fois, par son président inquisiteur général, d'Église et d'État. Alors cet ensemble recteur, très solidement soudé de l'institution, c'est-à-dire inquisiteur général et conseil, et suprême, cela va entraîner une très forte centralisation administrative qui va renforcer l'efficacité des tribunaux locaux qui en constituaient la large base. Et une des tardives conséquences, c'est précisément ces formidables archives qui font notre bonheur. Donc on se trouve devant une structure pyramidale fortement hiérarchisée, qui conjugue la verticalité et l'horizontalité, c'est-à-dire un vrai modèle d'efficacité. Donc, à retenir, la double composante de cet ensemble, la composante séculière, la suprême, rouage du gouvernement, de l'État, mais pas n'importe quel État. Un État qui est en l'occurrence une monarchie ou la monarchie catholique. Deuxièmement, la seconde composante, la composante ecclésiastique, c'est-à-dire l'inquisiteur général qui tient son autorité du pape. Alors cette composante ambiguë favorisait bien sûr un jeu complexe entre le pouvoir de l'institution en soi, l'inquisition, et le pouvoir que la couronne pouvait exercer sur elle à travers justement cet ensemble inquisiteur général-conseil. Selon l'expression d'un éminent spécialiste du XVIe siècle, espagnol, Manuel, grand connaisseur, s'il en est quand même, de Charles Quint et de Philippe II et de ce XVIe siècle, hélas, je crois décédé il y a quelques années, Manuel Fernández Álvarez. Selon lui, c'est une évidence, il n'y a rien. Au sein du Conseil, les décisions se prenaient, je le cite, selon la ligne directrice tracée par l'inquisiteur général en accord avec les directives de la couronne. Et l'auteur considère la suprême, qui occupe, je le rappelle, au niveau protocolaire, la seconde place après le conseil royal. C'est le second conseil en importance hiérarchique. Donc, la suprême constitue, pour Manuel Fernández Álvarez, mais je crois qu'on peut partager son avis, je le cite, un organisme d'un genre nouveau, un des organes les plus puissants de la monarchie catholique, création, alors il met hechura, création ou créature, des rois catholiques, assumé par les grands Habsbourg, c'est-à-dire Charles Quint et Philippe II, persuadés, avec raison d'ailleurs, d'avoir entre leurs mains un formidable instrument pour le contrôle idéologique de la société d'alors. L'apparition presque simultanée à la fin du XVe, donc de ces deux nouveautés, l'inquisiteur général et le conseil d'inquisition bientôt indissociables, a donné à la jeune institution, on est loin de l'équipe du départ, donne à la jeune institution une structure administrative très fortement hiérarchisée et qui sera de plus en plus centralisatrice sous l'influence d'inquisiteurs généraux particulièrement autoritaires, il y en a eu, surtout au XVIe. Alors centralisatrice, ça veut dire que plus rien ne peut se faire pratiquement dans les tribunaux locaux. C'est-à-dire que, par exemple, le passage, faire passer les gens à la question, les soumettre à la question, hein, à question des tormentos, mais comme dans toutes les justices, hein, c'est pas particulier à l'Inquisition, au contraire, dans l'Inquisition, on faisait même un peu attention à ne pas trop esquinter les gens. Oui, c'est dans les textes, hein, étant donné qu'il n'y avait pas de bourreau dans l'équipe inquisitoriale. Dans l'équipe inquisitoriale de base, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure, le bourreau, il n'y a pas de bourreau. Il y avait un médecin, un barbier, tout ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de bourreau. On utilise le bourreau de la locale. Hein. Et quand il y en a un qui vient mourir, j'ai trouvé ça dans mes recherches un jour, eh bien, il faut en trouver un autre. Et alors là, justement, on s'inquiète de savoir est-ce qu'il s'est bien travaillé. Parce que c'était un sacré travail que de passer les gens à la question. Hein. Si vous serrez un peu trop les cordages, je dis ça en ironiquement, mais en fait, c'est assez tragique. Donc, il y avait quand même un souci qu'on ne trouve pas dans la justice civile, hein, un souci de, quand même, de, au fond, faire un maximum d'efficacité avec un minimum de dégâts. Voilà, si vous voulez. Alors donc, oui, tout ça pour vous dire que dans un procès au fin fond de l'Espagne, eh bien, lorsque le travail quotidien des inquisiteurs, et on devait faire passer quelqu'un à la question, au bout d'assez très rapidement, on ne pouvait le faire que si on demandait. Il fallait que la suprême le voie, examine le dossier et donne son accord. C'est vous dire la lenteur aussi, pourquoi les procès durent aussi très longtemps. Alors les exécutions capitales, n'en parlons pas. Les exécutions, enfin les condamnations à remettre au bras séculier, elles devaient automatiquement, forcément, être ratifiée, enfin confirmée par la suprême. Et il y a des cas où la suprême n'était pas d'accord, c'est-à-dire à ramener à une peine inférieure. Et c'est tout à fait passionnant. Enfin, tout passe par la suprême. C'est vous dire d'où l'énormité du corpus conservé, enfin des archives, malgré tout ce qui a été détruit au fil du temps. Il y a vraiment là un dossier unique au monde. Je crois qu'aucun pays n'a ce genre de choses. Ce qui est tout à fait extraordinaire, parce que même si, évidemment, on ne va pas faire l'apologie de l'Inquisition, mais enfin là, on a conservé dans les dossiers d'Inquisition, les procès d'Inquisition, mais ce sont des choses merveilleuses. Vous voyez des gens, hein, extraordinaires. Vous voyez des gens dont personne ne se souviendrait. On connaît leur vie, on les voit vivre pratiquement, on les voit penser. Enfin bon, bon. Je m'arrête là parce que, non, mais c'est vraiment particulièrement intéressant. Bon, alors, Antonio Domínguez Ortiz, un autre grand Espagnol aussi qui nous a quittés, centenaire je crois, soulignait l'impact de cette rigide structure pyramidale, car, écrit-il, je le cite, « dans un organisme aussi discipliné et centralisé que le Saint-Office, celui qui contrôlait l'inquisiteur général et le conseil de la suprême, contrôlait l'institution tout entière avec son vaste réseau de ministres et d'agents couvrant toute l'Espagne. Or, grâce à la générosité, entre guillemets, de Sixte IV, eh bien, c'était le roi d'Espagne, enfin, qui les contrôlait. Donc, autrement dit, ce qui distingua définitivement la nouvelle Inquisition de l'ancienne, c'est sa nature mixte, à la fois d'Église et d'État, et c'est ce qui en a fait un instrument politique efficace et redoutable. Alors, je dirais... J'ai encore du temps. Ouais, parce que je commençais à la demi. Hein.
Oui, bon, oui,
d'accord. Bon. Au départ, revenons à Séville. Notre équipe primitive, là, nos deux dominicains arrivent à Séville. Et au départ, l'Inquisition a dû s'organiser sans plan préalable. Pendant les 4 premières années, et là, ça a vraiment travaillé à fond, comme je vous le disais. Pendant ces 4 années, les premiers inquisiteurs ont dû procéder massivement et dans l'urgence sans disposer d'instruments juridiques adéquats. Il n'y avait rien. Alors on a vaguement, en cherchant, on a dépoussiéré quand même, car au Moyen-Âge, il n'y a jamais eu de normes unifiées en la matière. C'était les textes conciliaires ou les textes pontificaux qui faisaient office, disons, d'instruction. Au XIVe siècle, lorsqu'on voit justement que l'Inquisition médiévale s'essouffle complètement, se sclérose même un peu, ça devient un rouage secondaire de l'administration pontificale, on commence à voir apparaître des manuels, des guides, des vademécums, si vous voulez, mais qui étaient simplement destinés à aider l'inquisiteur au quotidien, à savoir comme le médecin qui feuillette son vidal, ou plutôt un juriste qui... C'est comment le code, là, tu sais, chez Androi, là, j'ai oublié le nom, m'échappe, là. Voilà, le Dalloz, merci. C'est encore... Donc voilà, alors, on voit apparaître des manuels, quelques-uns seulement, Et le dernier en date, et le plus important pour nous, c'est celui de Nicolau Emmerich, inquisiteur dominicain en couronne d'Aragon, qui a rédigé en Avignon en 1376 son Directorium Inquisitorum. Un vrai plaisir à lire ça d'ailleurs. Parents au plus pressé, c'est donc sur ce vademecum poussiéreux que les inquisiteurs dépêchés à Séville ont dû s'appuyer et n'ont rien d'autre. Mais évidemment, la différence de conjoncture historique, de nature de l'institution qui commence à se dessiner, de type de délit poursuivi le crypto-judaïsme qui n'a jamais été un délit qui a beaucoup intéressé les inquisiteurs du Moyen-Âge, rendait caduc en quelque sorte ce texte d'Emmerich. Alors, comme on invente le mouvement en marchant, nos deux inquisiteurs de Sévillan vont créer, tout en instrumentant à tour de bras jour et nuit, leur propre corpus. Alors pour ce faire, le tout nouvellement nommé inquisiteur général Tomás de Torquemada réunit à Séville en novembre 1484 les confrères des tribunaux qui étaient déjà installés à Cordoue, à Jaén, Ciudad Real, qui deviendra quelques mois plus tard celui de Tolède. Il les réunit et leurs travaux vont donner très très rapidement lieu à un corpus de 28 articles qui s'intitule Compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, qui sont vraiment un instrument de base. Et puis, dans les années qui suivent, les lacunes qui sont révélées par la pratique vont être comblées. On va ajouter quelques articles. Bon, je simplifie. Disons qu'en 1500, le Saint-Office dispose d'un corpus juris solide qui va servir de base normative et il va fonctionner là-dessus pendant trois quarts de siècle, jusqu'à la remise à jour définitive de 1561 par Valdès, parce qu'évidemment, d'un tribunal à l'autre, on avait pris des habitudes, des libertés, etc. Donc, Valdès, qui, je vous le répète, un juriste dans l'âme, va resserrer tout ça de façon à ce que la procédure soit vraiment la même partout. Et la réforme, donc, ça sera, il part des instructiones antiguas, donc celles qui ont été compilées à la fin du 15e, et ces instructions mises à jour vont donner lieu à un corpus qui s'intitule Instrucciones Nuevas, et c'est là-dessus que l'Inquisition de 1561 va continuer, ça restera en vigueur jusqu'à la disparition du tribunal, c'est-à-dire jusqu'en 1834. Donc, l'Inquisition moderne, comme je vous l'annonçais au départ, s'inscrit donc dans la continuité, mais aussi en rupture, et en rupture profonde avec, par rapport au modèle médiéval. En fait, au Moyen-Âge, l'Inquisition, à la limite, si vous voulez, n'est pas à proprement parler un tribunal. Ce n'est pas une entité organisée. C'est un procédé judiciaire, alors que le tardif greffon castillan devint rapidement une organisation complexe. Alors, l'équipe réduite de nos deux dominicains, là, du début, va s'étoffer en un véritable tribunal avec un noyau dur qui va comprendre de 2 à 3 inquisiteurs selon l'importance évidemment du tribunal, plus alors un procureur, j'y reviendrai, 3 secrétaires. Alors les secrétaires, ne croyez pas que ce sont simplement des petits gratte-papier, secrétaires, qui fait le café, etc. Non, pas du tout. Les secrétaires, d'ailleurs, au début, ils s'appellent notarios, et puis rapidement, ils deviennent secretarios. Dans secretarios, vous avez secreto. Hein? Donc, ce sont les seuls présents pendant les interrogatoires. C'est eux qui notent tout, c'est grâce à eux, on n'avait pas... Si vraiment l'Inquisition, je me souviens avoir fait rire M. Chenu un jour avec ça, s'ils avaient eu le téléphone, alors maintenant, je dirais même Internet, s'ils avaient eu le téléphone, et s'ils avaient eu, des enregistrements, là, ça aurait été vraiment formidable. Quand je vois ce qu'ils ont fait, tout simplement avec une plume et du papier... Alors, vous aviez donc les secrétaires qui notent tout, hein, et qui, normalement, ne doivent pas parler. Secretos, camara del secreto. Les archives de l'Inquisition, les premières archives, parce qu'au début, on met ça dans un carton, dans un placard, dans un coffre, et puis après, il n'y a plus de place, donc il faut des armoires, après, il n'y a plus de place, donc il faut une pièce entière, etc. Donc, on crée justement ce qu'on appelle el archivo secreto de l'Inquisition. Et d'ailleurs, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient qu'on touche à leur papier. Moi, à chaque fois, j'y pensais avec un plaisir bizarre, malin, quand j'avais l'occasion, dans ma lointaine jeunesse comme vous, là, d'aller travailler sur ces documents précieux. Mais toujours émouvant quand même, hein, vraiment. Bon, enfin, voilà. Donc, alors, voici l'équipe. Donc, l'équipe de départ, elle s'étoffe. Elle se constitue avec un personnel subalterne. L'alguacil, chargé des interpellations, etc. Un concierge important, des vaguemestres, un receveur de los bienes confiscados, donc des biens confisqués pour la couronne, parce que les biens confisqués vont au fisco real, fisco y camara real, comme disent les textes, un geôlier, un chirurgien barbier, un médecin attitré, mais comme je vous le disais, pas de bourreau. Un personnel bénévole surprenant qui va toujours étonner les étrangers, les fameux commissaires, mais ça c'est une innovation tardive. En 1540, les commissaires, ce sont les curés du coin, tout simplement, qui obtiennent le privilège d'être commissario del santo officio, c'est-à-dire d'être les yeux, hein, les yeux et les oreilles de l'Inquisition là où elle n'est pas. Parce que vous voyez bien, 9 tribunaux, il est bien évident qu'il y a des endroits où les Espagnols ont passé toute leur vie sans jamais voir un inquisiteur. On savait qu'elle était là, mais elle était quand même très... Elle n'était pas présente partout. Elle l'était davantage, d'où cette espèce de toile d'araignée, n'est-ce pas, de réseau qui va couvrir toute l'Espagne, grâce à ses commissaires. Moi, j'ai trouvé un exemple absolument extraordinaire, mais ça, c'est à la fin du XVIIe siècle, où un de mes malheureux condamnés au tribunal de Grenade, condamné à la prison, mais la prison, c'est une prison ouverte, hein. Parce qu'il faut qu'ils aillent trouver de quoi manger, ils n'ont rien, donc ils sont dépouillés de tout, on les met en prison, et dans la journée, ils sortent, et ils font comme ils peuvent pour trouver de l'argent, pour trouver de quoi manger, et parfois nourrir leur famille, qui était avec eux en prison. Il y en a un qui s'est échappé. D'ailleurs, je suis même étonnée qu'il n'y en ait pas, il y en a si peu qui soient échappés. Il y en a un qui s'échappe, à Grenade. Tu sais que c'est un commissaire de Galice qui l'a repéré? Quand même. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Enfin, c'est tout à fait sidérant. Tout simplement parce que lorsque quelqu'un s'échappe, eh bien, il y a l'Inquisition lance des mandats de recherche, ces petits papiers que j'ai trouvés, avec le... Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. La description de la personne. Ça, je crois qu'on a trouvé ça nulle part ailleurs. Enfin bon, je reviens là. Donc, les commissaires, et plus encore, c'est ça surtout qui étonnait les étrangers, c'est ce qu'on appelle, alors toujours des guillemets dans ce cas-là, les familiers, los familiares, la familiature, la familiatura, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que des laïcs demandent le privilège de collaborer gratuitement, hein, parce que tout ça c'est gratuit, gratuitement, enfin gratuitement, oui et non. C'est gratuit, mais en échange, ils ont des avantages qui ne sont pas négligeables. Notamment, ils sont dispensés d'impôts, déjà, c'est intéressant. Deuxièmement, surtout, ils ne relèvent que de la justice inquisitoriale, même s'ils tuent leur belle-mère ou leur voisin. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il y a... Il y en a, oui, bien sûr. Et l'Inquisition, dans ce cas-là, est beaucoup plus indulgente que la justice civile. Et surtout, le prestige. Parce que tout le monde sait, sans savoir, que le voisin... puis aussi de rouler les mécaniques quelquefois pour laisser entendre que... Et familier de l'Inquisition, tout le monde en a peur. Et tout le monde... Mais ça, c'est quelque chose que nos mentalités ont du mal à comprendre. Écoute, je me souviens, je ne dirais pas où, mais enfin, dans le cadre de la préparation au concours, et il y avait une journée d'études comme ça, avec un collègue qui, étant de l'université, évidemment, on s'était cru obligé de participer, on avait dû le solliciter. Il était spécialiste de littérature classique. Espagnol. Et il avait donc proposé de faire quelque chose sur Lope de Vega, familier de l'Inquisition. Et je le vois encore se tortiller sur sa chaise pour excuser Lope de Vega, pour me dire quand même, ben oui, mais c'est une faute énorme de compréhension. Ça, c'est vraiment le péché capital, c'est l'anachronisme, quoi. C'est... il n'y avait aucune honte à être familier, au contraire. Au contraire. Et ce qui va choquer Madame d'Aulnoy, enfin, dans son récit, et d'autres, et les Français de la cour de Versailles qui assisteront au dernier grand auto da fé de 1680, c'est de voir que la plus haute noblesse d'Espagne se précipitait. Il y a un malheureux, on lui avait mis les fers aux pieds, on n'arrivait pas à l'ouvrir. Alors ce sont justement un de ces grands d'Espagne qui s'étaient précipités, ces grands d'Espagne, toute cette noblesse dans les bureaux pour s'inscrire, pour être familier, parce que lors des auto da fé, chaque condamné était encadré par 2 familiers. Non, il en fallait. Et le problème de faire au pied, un de ces grands, j'ai oublié son nom, s'est précipité chez un serrurier, si on peut dire, pour aller chercher, pourquoi on trouve, etc. Un grand d'Espagne, tu te rends compte, ça baissait à ça. Les gens qui étaient de Versailles, ils n'en revenaient pas. C'était sidérant. Donc tout ça pour vous dire que la familiature, c'est quelque chose de très intéressant. Et qu'il ne faut pas juger avec nos yeux, bien entendu, comme tout le reste. Hein. Bon, voilà. Donc voilà l'équipe inquisitoriale. Il y a quand même une différence notoire, justement, sur laquelle je dois revenir par rapport à l'ancienne Inquisition, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait un inquisiteur. Il faisait tout. Il était juge. Hein. Le juge médiéval, dans l'Inquisition moderne, il se dédouble en 2. Inquisiteur et promoteur fiscal ou fiscal tout court. Moi, je traduis par procureur, parce que je ne sais pas comment traduire autrement. Donc, le fiscal, ou promoteur fiscal, c'est un personnage redoutable. dont l'importance va croissant. C'est lui qui pose l'accusation, c'est lui qui demande, là, toujours en termes tremendos, vraiment la peine majeure, en fait, etc. Voilà. Mais il n'est pas juge. Il ne juge pas. Le seul qui juge, c'est l'inquisiteur. Autrement dit, tout le procès repose sur ce tandem, inquisiteur, un, deux, parfois trois, et procureur fiscal. Alors, à la différence du modèle médiéval, pour en finir avec ce sujet-là, ces nouveaux inquisiteurs furent bientôt non plus des réguliers versés en théologie, comme nos deux premiers de Séville, mais des séculiers experts en droit. Et très vite, dès 1498, il fut imposé qu'un des deux inquisiteurs devait être un juriste. Autrement dit, l'assesseur de la première équipe, on leur avait mis un assesseur juridique. L'assesseur juridique, qui souvent venait du tribunal civil du coin, il finit par disparaître parce qu'il n'y a plus de raison d'être. Il n'y a plus besoin de cet expert. Par contre, nos nouveaux inquisiteurs juristes, n'étant plus d'assez fins théologiens, ils vont avoir recours aux services bénévoles, j'insiste là encore, les services d'experts en théologie qui viennent de l'extérieur du tribunal pour qualifier, justement, et ça, le rôle est capital, vous comprenez bien, pour qualifier avec précision les délits, c'est le terme qu'on utilise, donc je le garde, et ces qualificateurs, qualificadores, sur lesquels, à mon avis, il y aurait quand même un travail formidable à faire. Donc, je me souviens avoir laissé passer, parce que je devais reprendre le train, un document dont je rêve encore, que je n'ai pas réussi à retrouver là-dessus, sur quelqu'un qui demandait, justement, à être qualificateur, et il exposait ses raisons. C'était passionnant, mais bon, malheureusement, comme toujours, on n'avait pas beaucoup de temps. Alors, ces qualificateurs, la plupart du temps, ce sont des professeurs de théologie de l'université du coin, si je peux dire. Hein, ils vont jouer un rôle capital. D'ailleurs, c'est eux qui accompagnent jusqu'au pied du bûcher les condamnés quand il y a condamnation à remise au bras séculier. Aucun inquisiteur n'a vu une exécution capitale. L'inquisiteur, il est dans son bureau, il attend qu'on lui apporte le procès verbal d'exécution. Aucun inquisiteur n'a assisté. Il faut bien se mettre ça dans la tête. D'abord, les exécutions. Je pense que quand on donne en illustration le tribunal de Berruguete, le tableau de Berruguete est un monstrueux contresens, parce que bien sûr les exécutions se faisaient hors les murs, ça va sans dire, pour des raisons évidentes. Hein. Donc par contre, ceux qui accompagnent jusqu'au bout le condamné, ce sont les calificadores, parce qu'ils sont là pour recueillir éventuellement au dernier moment le repentir, la conversion, etc. Et c'est eux qui vont décider au tout dernier moment si le repentir du malheureux qu'on a mis sur le bûcher avant d'allumer le feu, si sa repentance, si ce repentir est sincère ou pas. C'est-à-dire s'il a le droit ou non d'être étranglé préalablement. C'est quand même important. Ah ben oui, mais moi je préférerais être étranglé que brûlé vif, hein, sincèrement. Oui. Surtout que ça doit être drôlement rapide. Le garrote vil, la paf, c'est, vous savez comment ça se fonctionne, le garrote vil, hein? Rapide, sans douleur, efficace. Ah bah oui. Donc c'est le qualificateur qui va décider si oui ou non le repentir est sincère. Parce que bon, quand on se repent avec les flammes sous les pieds, c'est évidemment, on peut avoir des doutes sur la sincérité. Donc, ces tribunaux, indépendants les uns des autres, hein, chacun dépendant, comme je vous l'ai déjà dit, directement du Conseil, constituent le corps de l'institution, c'est-à-dire sa base. C'est pourquoi je dis ce système à la fois vertical, et horizontal et vertical est tout à fait impressionnant. Alors, l'Inquisition sera en effet un instrument de pouvoir tout à fait impressionnant. Alors, malgré l'indéniable filiation qui unit les deux inquisitions, l'ancienne et la nouvelle, la différence, vous l'avez compris, est à la fois d'ordre chronologique, c'est évident, géographique aussi, puisque plus, dans un lieu qui était vierge de toute inquisition médiévale, mais aussi, on l'a compris, de nature, puisque la nouvelle inquisition échappe en partie au pape, en partie, d'où cette ambiguïté, pour devenir un instrument au service de la monarchie. Ainsi, je cite ici un spécialiste éminent, ce que je vous cite ne sont que des éminences, hein. Non mais c'est vrai, spécialiste de l'illuminisme castillan, c'est Antonio Marquez, qui insiste sur le régalisme, régalismo, mais je l'ai traduit en français, je crois que c'est possible, des rois catholiques. Je le cite, « La nouvelle inquisition, ou inquisition espagnole, a sa justification canonique dans la bulle de Sixte IV, sa justification sociale dans la situation religieuse créée par les juifs convertis et son caractère politique dans les tendances clairement régalistes de la monarchie espagnole émergente. Cet aspect régaliste lié à l'époque est le plus original de l'inquisition espagnole et le plus lourd de conséquences pour l'Église et pour l'Espagne. l'Inquisition espagnole est inséparable du pouvoir politique. Mieux encore, le père González Martínez Díez, que vous saluerez au passage, parce que c'est grâce à lui que vous pouvez avoir la version en latin. Je vous ai mis la référence. Il nous a publié ce merveilleux Bulario de l'Inquisition espagnole à bilingue, parce que sinon... Il, lui, est de cet avis, de l'avis suivant, ce qui caractérisera les rois catholiques, ce sera, outre leur appui inconditionnel à l'action des inquisiteurs, le fait qu'ils en soient devenus les promoteurs. Il dit en espagnol, parce que je traduis tout ça, « motores y propulsores ». Bon, j'ai traduit par « promoteurs » parce que je vois rien de mieux. Mais bon, « motores y propulsores ». Alors ça, c'est une réflexion qui m'évoque une très intéressante analyse qui m'avait frappée, que fait Ignacio Fernández Terry Cabras dans un ouvrage consacré à Philippe II, Felipe II et le clero secular, La application del Concilio de Trento. Dans cet ouvrage, l'auteur, Fernández Terry Cabras, considère, non, il examine, pour simplifier, hein, l'attitude des souverains européens face aux décrets tridentins. Vous savez que chaque pays les a reçus d'une manière ou différente. Et il conclut que l'attitude de Philippe II a été bien plus subtile que celle des autres. Il point de rupture à l'anglaise, ni de gallicanisme à la française. Non, 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 rien de tout ça. Je le cite. Philippe II accepte les dogmes, donc de 30, hein, là on est. Non. Philippe II accepte les dogmes et les réformes soutenues par la réforme catholique, qu'il partage sincèrement et qui correspondent aux objectifs de sa politique. Mais en même temps, il s'érige en leader, c'est le mot qu'il utilise, hein, que j'ai gardé, il s'érige en leader de cette réforme. Il essaie de la contrôler dès le départ, afin d'éliminer toute interférence de la hiérarchie romaine dans le disciplinement du clergé de ses royaumes. La contre-réforme a posé une structure ecclésiastique clairement pyramidale, ce que fait Philippe II, de point, occuper le sommet de cette pyramide. Or, je pense que les rois catholiques n'ont rien fait d'autre avec la nouvelle Inquisition, qui est espagnole, moderne, pontificale certes, mais et, je dirais presque, surtout royale. De sorte qu'on peut s'exclamer avec Jean-Pierre de Dieu, que j'ai déjà cité, qui est Jean-Pierre de Dieu, donc qui est un de nos collègues historiens français, qui a fait une thèse absolument remarquable sur le tribunal de Tolède. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire derrière. Enfin, c'est vraiment un travail formidable. Je le cite. Quel instrument politique aussi que l'office ? Point d'exclamation. Là où les privilèges et les lois civiles empêchent les agents du roi d'aller, les inquisiteurs passent. Serviteurs de l'État, ils le sont, de fait. Mais juridiquement, ils sont d'Église. Et pour l'Église, les lois civiles n'existent pas. Alors, cet instrumentum regni, parce que vraiment c'est ça, fera partie du legs transmis par les rois catholiques à la nouvelle dynastie. La culture de la double maison, hein, de Bourgogne et Habsbourg, qu'on a déjà évoquée, étant dans la ligne erasmienne, chère à la cour de Bruxelles, tout à fait étrangère à cette pratique inquisitoriale, la nouvelle dynastie qui arrive en 1506 et ensuite en 1517 ne lui fut pas d'emblée favorable. L'Inquisition, pour eux, c'était vraiment, ils découvraient quelque chose de... Alors ça va susciter de très vifs espoirs dans les milieux espagnols hostiles au tribunal, à commencer par les nouveaux chrétiens. Il y eut des velléités de réforme, voire de suppression. D'ailleurs, je crois que M. Alain Hugon, que vous connaissez tous, je crois, a magnifiquement développé cela dans un article qui s'intitule « L'Inquisition espagnole à la question de la politique étrangère fin 15e siècle, année 1560 », dont j'ai ici une photocopie. Je n'ai pas l'ouvrage sur moi, mais si ça vous intéresse, je vous le laisse. Donc, des velléités de suppression, de réforme, qui finalement, bon, pour des raisons complexes et à la fois fort simples, parce que la mort, par exemple, du chancelier sauvage joue un rôle important. Pendant le règne éclair de Philippe le Beau, évidemment, tous les espoirs s'effondrent avec sa mort. Et puis voilà qu'arrive Charles de Gand, un berbe, c'est 17 ans. Il vient d'un horizon mental tellement différent de l'Espagne inquisitoriale que les espoirs sont permis, mais ces espoirs seront bien vite dissipés. Et la déception est d'autant plus grande qu'à ce moment-là, l'Inquisition espagnole, qui a été victime, elle aussi, là, de son succès, c'est-à-dire l'éradication du crypto-judaïsme, il n'y en a pratiquement plus, le tribunal se trouve en position délicate déjà depuis 1506. En fait, il est au chômage, quasiment, au bord de l'inactivité, donc on commençait à se poser la question de savoir si son maintien se justifiait. Mais heureusement... Alors, heureusement que Luther est arrivé. À mon avis, les inquisiteurs auraient dû lui ériger une statue. Ah oui. Alors, il semble que le tout jeune empereur eut vite compris l'intérêt politique que présentait l'institution, étant donné justement le caractère confessionnel de sa monarchie. Il semble même que dès 1519, déjà, il soit intervenu à Rome pour qu'on ne modifie rien et qu'on ne supprime surtout, pas. Alors, était-ce lui vraiment ou ses conseillers? Je ne sais pas. Alors, mais évidemment, il faut tenir compte d'une chose, c'est que le début du règne de Charles Quint, 1519, il est empereur, il devient empereur, ça coïncide très exactement, enfin 1517, 1519, ça correspond exactement avec la rébellion de Martin Luther. La preuve, c'est qu'à la première Diète de Worms, où ce malheureux jeune empereur, pas du tout préparé quand même politiquement, et encore immature d'une certaine matière, là, il va mûrir d'un seul coup, ça, c'est une épreuve terrible. Moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné, ça. Vraiment, parce qu'il est, d'abord le couronnement à Aix-la-Chapelle, c'est quand même, on peut imaginer, très important, parce que lors du couronnement, justement, il reçoit l'onction comme un prêtre, hein, faut pas l'oublier. Ses mains sont consacrées. J'ai toujours pensé que quand il était vieux à Yuste avec ses pauvres mains, en les regardant, il a dû se... Parce que bon, ses mains étaient consacrées. Il s'engageait à défendre l'Église, enfin, etc. Et immédiatement après, la Diète de Worms, où tout le monde l'attendait, parce qu'on disait, oh, ce petit inquisiteur, ce petit empereur de rien du tout, on va faire qu'une bouchée. Et là, en plus, on a ajouté à l'ordre du jour ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire la comparution de Luther. Donc, il faut imaginer tout ce que ça représente. Donc, cette grande rupture de la chrétienté allait rendre à l'Inquisition en Espagne, justement, toute sa force et son prestige. Il y a un magnifique article d'Augustin Redondo, d'ailleurs, là-dessus, hein, sur 1520, la menace luthérienne en Espagne, etc., les réactions. Un très, très bel article, difficile à trouver, mais fort beau. Donc, la menace luthérienne va rendre, plus que jamais, indispensable ce formidable outil parfaitement rodé et qui, de plus, est disponible, justement. Il n'avait plus rien à faire. Donc, c'est ainsi que je saute, évidemment, un peu de temps, mais au milieu du XVIe siècle, quand on va passer du règne de Charles Quint au règne de Philippe II, et où là, alors, on est à la veille des guerres de religion en France, la question religieuse a mis l'Europe à feu et à sang. Il faut voir aussi, on ne peut pas comprendre ni juger tout cela sans tenir compte de l'arrière-plan, si je peux dire, enfin, vraiment, sur quoi tout cela se développe. Lorsque Charles Quint, justement, se retire à Yuste, c'est là qu'on lui annonce qu'on a découvert horreur des foyers protestants en Espagne. Alors je sais que tu vois les choses d'une certaine manière. Je pense que pour l'empereur, ça a été vraiment de se dire, l'Espagne pour lui, c'est le Saint des Saints. C'est devenu le Saint des Saints. Il est venu mourir là. Après tout, il aurait pu finir sa vie à Bruxelles. Avec un bon poil, il aurait été... Parce que bon, il avait toujours froid. Mais... Ah bah oui, peut-être, mais enfin bon. C'est vrai que l'Extrémadour, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon. Mais bon, c'était vraiment pour lui. Il l'avait dit dans le fameux discours, justement, de 1520, là, qu'il en ferait, bon, c'est ce que représenterait l'Espagne pour lui et qu'il y reviendrait, etc. Donc, pour lui, je pense que le fait qu'on l'ait alerté, et un méchant inquisiteur général, qui est Valdès, qui en a profité, parce que lui, Valdès, il était quasiment au bord de la disgrâce. Même pas au bord, il était quasiment en disgrâce. Il avait d'ailleurs fait ses valises, on l'avait prié de le faire, pour aller s'occuper de son évêché de Séville, dont il ne s'occupait guère, parce que quand on est inquisiteur général et président du conseil, on ne peut pas être partout. Ben voilà, tu me le demandas. Ah, tout à fait, mais justement, c'est d'ailleurs ce qui va perdre le malheureux Carranza, parce que Carranza a lutté contre ça, il s'est fait des ennemis mortels, dont Valdès, justement. Donc, lorsque l'empereur à Yuste, on lui dit, on lui apprend, on lui bombarde, n'est-ce pas, horreur, horreur, il y a le feu à la maison, etc. Bon, évidemment, il écrit une lettre terrible, il y a un codicille terrible à son testament en disant que, véritablement, il faut écraser cette... Et là, il s'agit du protestantisme, autochtone. Il ne s'agit pas des étrangers, arrêtés dans les ports. Voilà, donc... C'est à ce moment-là, on est quand même très frappé par l'extrême violence avec laquelle ces foyers de pseudo-protestants, parce que là encore, il y a toute une polémique autour de ça, était-ce ou n'était-ce pas des protestants, allait-il le devenir, etc. Il y a une violence extrême, n'est-ce pas, à ce moment-là, de la part de Philippe II, mais et de son père aussi, qui contraste véritablement avec ce que l'on connaît. Enfin, il a quand même fait beaucoup d'efforts pour essayer de concilier tout ce monde-là en Europe tout de même, hein. Les deux premiers abjures d'Espagne, les Austrias Mayores, comme disent les Espagnols, qui sont quand même très sévères, hein, et très durs, parce que ça veut dire que les autres sont los menores. Donc, les deux premiers Habsbourg vont tenter d'introduire l'Inquisition espagnole dans d'autres territoires soumis à leur autorité, précisément parce que c'était un instrument qui pouvait être politiquement très utile. En général, c'est d'ailleurs sous l'effet de la, comment dire, de la crainte de la contagion protestante, qui à l'époque est surtout calviniste. Même si pour les inquisiteurs, tout le monde est luteranos. Hein. De toute façon, ils ne se sont pas encombrés de vocabulaire. Luterano, ils avaient bien raison, c'était plus simple. En 1546, l'empereur va vouloir l'introduire à Naples, là où son aïeul Ferdinand avait échoué. Il en charge le vice-roi, Pedro Álvarez de Toledo, mais ça va déclencher un soulèvement populaire tel que l'empereur va y renoncer. En 1563, Philippe II va tenter d'instaurer l'Inquisition dans le duché de Milan, mais là aussi il va se heurter à l'opposition conjointe des habitants, de l'épiscopat de Lombardie et de Charles Borromée en plus. Donc devant les troubles suscités, le gouverneur, qui en l'occurrence est le duc de Cessa, qui dit qu'il n'est pas du tout certain de pouvoir contenir ces révoltes, eh bien là encore, le roi se désiste à son tour. Dernier exemple, bon, ce sont des exemples qui mériteraient d'être développés, mais je ne peux pas en dire plus. Aux Pays-Bas, dans un contexte beaucoup plus compliqué, le projet de Philippe II de remodeler sur le modèle espagnol les inquisitions, qui remontait au Moyen-Âge, en fait, diocésaine, en fait, ces inquisitions médiévales. Ce projet-là a été, entre autres, mais c'était le déclencheur de ce qu'on appelle la guerre des Pays-Bas, hein, Guerra de Flandes. Donc, entre l'inquisition et la monarchie catholique, s'est établi un lien de dépendance ou d'instrumentalisation, si vous voulez, encore que le mot n'existe pas dans le dictionnaire, en français, paraît-il, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Instrumentalisation, bon. Réciproque. Un lien de dépendance réciproque qui a varié sur 355 ans, on peut l'imaginer, selon la conjoncture, les circonstances, et les circonstances internationales également, et les personnalités à la fois des souverains et des inquisiteurs généraux. Hein. Chacun sait que le procès inquisitorial, qui est mené dans le plus grand secret, pas absolu, parce que rien n'est absolu en matière humaine, mais vraiment, l'Inquisition, tout au long de son activité, a eu un très grand souci du secret, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il était très utile à la procédure, mais aussi parce qu'il était garant de leur prestige. J'ai trouvé des textes intéressants là-dessus. On le recommande toujours. Et l'Inquisition générale, enfin, le Conseil, le rappelle aux inquisiteurs de base, hein, qui devaient notamment ne pas accepter les invitations inconsidérées, ne pas danser avec les dames, ne pas s'habiller, etc. Et c'est pourquoi, en général, les tribunaux, comme à Séville, ils sont passés du côté du pont, à Triana, dans la forteresse de Triana, parce que là, justement, ils étaient mystérieusement entourés d'un vrai mystère pour la population. Ça a augmenté leur autorité. Enfin, bref. Donc, chacun sait que le secret inquisitorial, c'était une vraie réalité, mais en plus, il est, disons, d'autant plus important que l'issue des procès va donner lieu à une proclamation solennelle des sentences où tout est calculé pour frapper les esprits. C'est ce qu'on appelle l'autodafé, et particulièrement l'autodafé général qui, lui, se déroule en place publique. Ils ont été très rares, hein. Faut pas croire qu'il y en avait tous les deux jours, d'ailleurs ça coûtait assez cher. Les autodafés généraux, auto general de fe, se déroulaient donc sur la grande place de la cité, à Madrid c'était la Plaza Mayor, en présence des plus hautes autorités qui étaient obligés d'être présents. Et quand ils ne pouvaient pas venir, moi j'ai vu les certificats, hein, de ces messieurs qui disaient « moi j'ai une hernie, moi j'ai des hémorroïdes ». C'était les deux grands mots, hein, parce que monter à cheval... Non, c'était un des fléaux de l'époque chez les hommes, c'était ça. Donc avec certificat médical à l'appui, hein, faut pas croire. Pour dire « moi je peux pas venir, je regrette, etc. » Mais certificat médical pour dire que je ne serai pas à les cérémonies. Donc les autodafés généraux rassemblaient toutes les autorités civiles et religieuses du coin, selon un cérémonial dispendieux et très somptueux, qui deviendra d'ailleurs absolument hypertrophié au XVIIe siècle, mais parce qu'il va dans le sens du développement baroque pour la fête aussi, parce que c'est une fête d'une certaine manière. Hein. C'est comme ça que le voient les étrangers d'ailleurs. Donc si le roi assiste à la cérémonie, il n'y en a eu que quelques cas, bien entendu, alors là, le triomphe du Saint-Office est à son comble, ça va sans dire. Dans le cadre de la répression des fameux foyers protestants, pseudo-protestants, découverts en Castille, à Valladolid, en 1558, il y a eu un premier autodafé qui fut organisé le 21 mai 1559, donc à Valladolid, parce que c'est à Valladolid qu'était la régente et le gouvernement. Et la cour, évidemment. Philippe II était encore, avait succédé à son père, mais n'était pas encore entré en Espagne parce qu'il était toujours retenu aux Pays-Bas. Donc c'est la régente, Doña Juana, la fille de Charles Quint, qui représente le roi, avec le fameux et malheureux Don Carlos à ses côtés, qui a une douzaine d'années à l'époque. L'inquisiteur général, qui est Fernando de Valdés, qui préside l'autodafé, va innover, il avait quand même un sacré cran, en lui demandant de promettre publiquement, parce que normalement, les autorités gouvernementales, c'est-à-dire le gouverneur, faisait acte d'allégeance publique devant tout le monde, il y avait, promettait, faisait serment d'aider l'Inquisition, etc. Eh bien, cette fois-ci, l'inquisiteur général va demander à la régente de faire la même chose, c'est-à-dire un acte d'allégeance, parce que c'est ça, très exactement, hein, de promettre, d'aider, de toujours favoriser, aider à haute voix, bon, publiquement, etc. C'est quand même assez étonnant. Et la régente le fait. Quelques mois plus tard, le 8 octobre, a lieu un deuxième auto-da-fé, toujours dans le même cadre, et pour les mêmes raisons. Et là, il y a eu des nobles, certains nobles qui sont d'ailleurs, qui étaient dans la cour, qui ont été condamnés au feu. Alors on dit que certaines dames de la cour pleuraient à chaudes larmes, parce que c'était des gens qu'ils connaissaient. Bon, c'est assez tragique, hein, ces deux auto-da-fé de Valladolid. Donc le 8 octobre, un deuxième auto-da-fé. Mais entre-temps, le roi, qui vient d'arriver en septembre, il est rentré des Pays-Bas, donc c'est lui qui préside, enfin pas qui préside, c'est l'inquisiteur général qui préside. Le roi ne préside pas. C'est, si vous voulez, l'invité d'honneur, mais il ne préside pas. D'ailleurs, le siège de l'inquisiteur général est subtilement au-dessus de celui du roi, plus haut. Donc, deuxième auto-da-fé, cette fois, l'inquisiteur général va demander au roi de faire la même chose que Doña Juana. Et Philippe II va le faire. Autrement dit, il va prononcer à son tour le discernement. Ce geste de Philippe II, qui est un de ses premiers gestes de roi en Espagne, il vient de rentrer. Lourd de sens et à haute portée symbolique, va s'inscrire définitivement dans la pratique, c'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'il y aura des auto-da-fé généraux auxquels assisteront les souverains, ils prêteront ce même serment. J'ajouterai quand même un détail. Pour prêter ce serment, le roi se tient debout et découvert devant l'inquisiteur général. Je ne sais pas si vous mesurez dans le contexte espagnol ce que ça représente. Je vous rappelle quand même que le privilège de la grandesse en Espagne, c'est précisément de rester couvert devant le roi. Et là, le roi se découvre devant l'inquisiteur général. Enfin, il se découvre devant l'institution, évidemment. Voilà. Mais, alors, il y a des gens que ça scandalise. Juan Antonio Llorente, le premier historien de l'institution, mais qui, évidemment, était gagné aux Lumières de France, qui est revenu dans les fourgons de Napoléon en France. Enfin, bref, il avait quand même été secrétaire du Saint-Office, hein, donc il savait de quoi il parlait. Quand il parle de ça, il est offusqué de ça. Mais en fait, il a tort. Parce que l'auto-da-fé, là encore, il faisait un contresens. L'auto-da-fé, c'est une célébration du pouvoir. Alors certes, c'était pour l'Inquisition le moyen éclatant d'affirmer le sien. En s'affichant ainsi, le Saint-Office, si peu visible d'ordinaire, apparaissait en toute sa puissance. Mais pour la monarchie aussi, c'était une occasion de manifester sa puissance et de renforcer la cohésion politique et sociale autour de l'idéal qui était proclamé lors de cette cérémonie. D'ailleurs, l'Inquisition assuma également, je n'en dirai qu'un mot, la surveillance idéologique du nouveau royaume par la censure de l'écrit, en constituant, alors c'est dans un contexte général, là encore, européen, mais le premier index inquisitorial, celui de 1551, et celui de 1559, qui en fait est un perfectionnement du premier, qui sont les deux index, de Valdès, parce qu'en général, les index inquisitoriaux, index, c'est-à-dire des livres interdits, portent le nom de l'inquisiteur général qui l'a promu, en quelque sorte. Donc ces deux index, celui de 1559, en Espagne, l'index inquisitorial aura toujours la prééminence sur les autres, y compris sur l'index romain. Celui de 1559, lorsqu'il paraît, l'index romain paraît la même année. Et en Espagne, il est décrété que c'est l'index inquisitorial qui est en vigueur et pas l'autre. Hein. C'est tout dire quand même. Et cette fonction de la censure de l'écrit, c'est une fonction que l'Inquisition va exercer jusqu'à la fin de son existence, et je dirais même qu'à partir du XVIIIe siècle, à partir du milieu du XVIIIe siècle, soyons clairs, il y a encore des flambées dans le premier tiers du XVIIIe avec ce qu'on appelle les portugueses, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens d'origine portugaise, qui ont fui en Espagne lorsque l'Inquisition portugaise, qui a fini par s'installer aussi, a vraiment fonctionné à tour de bras et à l'aveuglette, quasiment. Donc là, il y a eu vraiment une fuite des nouveaux chrétiens en Espagne, si bien qu'on les retrouve là, par contre, l'Inquisition espagnole retrouve, moi j'ai travaillé surtout sur cette période-là, retrouve un regain d'activité pour des malheureux nouveaux chrétiens qu'on appelle los portugueses. Quand on dit portugais, tu vois, ils étaient nés à Séville, mais ils étaient portugais par leur père, etc. Eh bien, à partir de, disons, les grandes flambées de 1720-1730, l'Inquisition en Espagne, franchement, là, n'a plus grande activité, puis on a changé de dynastie aussi. Mais les Bourbons ne l'ont pas supprimée. entre parenthèses. Je me souviens, je n'ai pas retrouvé le passage, d'une lettre de Louis XIV à Philippe V, en lui disant, l'Inquisition, vous n'y touchez pas. Hein, l'air de dire, oui, l'Inquisition, ça ne nous plaît pas beaucoup, mais enfin, pour l'instant, vous la gardez, vous essayez plutôt de... Mais n'y touchez pas pour le moment. Hein, vous verrez plus tard, mais là, n'y touchons pas. À partir de, disons, du milieu du XVIIIe jusqu'à trois quarts de siècle, jusqu'à son extinction, la principale activité de l'Inquisition, ça a été une activité de censure. C'est à peu près tout. Voilà. Donc, j'aurais eu d'autres choses à vous dire, mais je crois que le temps a passé. Tout simplement, pour vous donner deux exemples, l'Inquisition a été parfois clairement instrumentalisée par le pouvoir. Ça a été réciproque, mais c'est quand même souvent le pouvoir qui l'a utilisé. Je rappellerai que d'ailleurs, M. Hugon, il fait également allusion dans son article, à partir des années 1560, où la France entre dans les guerres de religion, hein, donc... Le protestantisme en France commence à être vraiment sérieusement actif. Pour imperméabiliser la frontière, les Pyrénées, on ne pouvait pas complètement les fermer, même si au XIXe siècle, certains disaient « hay que correr los Pirineos », comme « correr la cortina ». Mais malheureusement, il y en a deux bouts là. Hein, le problème, c'est que on pratiquait du côté oriental la contrebande des chevaux du côté catalan. Eh bien, la contrebande des chevaux, c'est-à-dire les Espagnols vendant des chevaux aux Français huguenots, aux huguenots français, donc par les Pyrénées, ça a été considéré comme une forme de complicité avec les protestants français. Donc, pour l'empêcher, eh bien, à ce titre, à la demande du roi, bien sûr, ce délit va devenir... Alors, on peut se demander comment on peut en arriver là. Parce que, bon, que la bigamie, au fil du temps, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais enfin, c'est vrai que l'éventail des délits s'est étoffé. D'ailleurs, à partir du moment où on est entré, surtout, dans une politique de disciplinement de la société au XVIe siècle, donc on voit s'ouvrir l'éventail, c'est-à-dire que des délits qui, d'ailleurs, étaient déjà poursuivis, on va les appeler de mixtifori, justement. Parce que même la justice ecclésiastique, hein, c'est-à-dire la bigamie ou polygamie, la sorcellerie, étaient des délits qui étaient poursuivis par la justice civile, et durement, notamment la sorcellerie, beaucoup plus durement que par les inquisiteurs, et la bigamie. Alors on peut se demander pourquoi, d'un seul coup, ça devient également des délits passibles du tribunal d'inquisition. C'est-à-dire qu'un bigame, il risque de passer devant la justice civile, devant la justice, comment on appelle ça, du vicaire général, là, et épiscopal, et devant l'inquisition. Alors, bon, on voit toujours par quel tour de passe-passe on y arrive. Parce que quand on est bigame, c'est-à-dire quand on épouse quelqu'un en sachant que le premier conjoint, la conjointe, hein, parce qu'en général c'était à 99% des hommes, eh bien, c'est-à-dire qu'il dit irrisione de los sacramentos, irrisione del sacramento del matrimonio. Donc par ce biais, ça peut entrer dans le cadre d'une hérésie. Enfin, voilà. Mais la contrebande des chevaux, évidemment, c'était quand même plus compliqué. Donc ça a été considéré, effectivement, donc l'Inquisition a inscrit d'Aragon, hein, parce qu'il y a deux secrétarias. Donc, en Aragon, l'Inquisition, qui était la même que celle du royaume de Castille, mais il y a quand même deux choses. Par exemple, la sodomie, puisque c'est comme ça qu'on s'exprime à l'époque, c'est un délit qui a toujours été, partie des délits poursuivis par la couronne d'Aragon, en couronne d'Aragon par l'Inquisition, mais jamais par la couronne de Castille. On n'en a aucun. Ça ne faisait pas partie de l'éventail des délits. Alors voilà, donc vous allez me dire la contrebande des chevaux. Mais ceci dit, justement, William Monter, qui a écrit un livre très intéressant sur ce qu'il appelle, las otras inquisiciones, dans la version espagnole de son livre, je crois, a fait le point en disant qu'on n'a pas trouvé un seul procès pour... c'est-à-dire que ça n'a pas eu d'incidence, que c'était purement théorique. Je donnerai un deuxième exemple. Pendant la guerre de succession d'Espagne, justement, entre 1700 et 1740, on a ordonné au curé de Catalogne de trahir le secret de la confession en dénonçant au Saint-Office les pénitents qui avoueraient, en confession, être partisans de l'archiduc Charles d'Autriche. Ils étaient nombreux dans cette région-là, hein, alors que, évidemment, la couronne devait revenir normalement à Philippe d'Anjou, puisque c'est ce qu'avait décidé Charles II. Donc voilà, ce genre de choses. Mais bon, il est certain qu'en dehors de ces mesures qui sont d'ailleurs peu efficaces, il y a quelques retentissantes affaires dont j'aurais voulu parler, mais bon, j'ai mal calculé mon temps. Cette instrumentalisation délibérée du Saint-Office par la monarchie, on peut donner un exemple, justement, c'est la sombre affaire Antonio Pérez, là, elle est vraiment même d'escalade, comme on dirait en espagnol, ou l'inverse, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la monarchie par l'inquisiteur général. Et ça, le meilleur exemple, c'est l'incroyable procès de l'archevêque de Tolède, Bartolomé Carranza, qui quand même a duré 17 ans tout de même. Hein. Et vous rendez compte, le primat d'Espagne, connu et reconnu de partout. Enfin, à tel point que lorsqu'on l'a proposé pour l'archevêché de Tolède, normalement à Rome il y a une enquête sérieuse faite évidemment sur le candidat, on l'a dispensé de l'enquête tellement ses vertus et son orthodoxie étaient reconnues. Et quelques mois plus tard, il est arrêté par l'Inquisition. Voilà. Et l'Inquisition ne voudra pas lâcher, parce que le problème, Bartolomé Carranza, ça c'est pas n'importe qui, il ne s'est pas laissé faire, et il a revendiqué, ainsi que son avocat, que son procès soit jugé en cour de Rome. Donc les papes ont réclamé le procès et l'inculpé, mais Philippe II n'a pas voulu les lâcher. Tout simplement pour ne pas porter atteinte à l'honneur du Saint-Office, car le Saint-Office ne pouvait ni ne devait faillir. Il y a même un délit qu'on a inventé de toutes pièces, qu'on voit dans les documents, qui s'appelle honor dell'officio, honor del santo officio. Vous pouviez faire l'objet d'un procès sous l'inculpation d'avoir porté atteinte à l'honneur du Saint-Office. Honor dell'officio. Donc c'est vous dire. Alors finalement, il y a quatre papes qui sont intervenus dans l'affaire Carranza, et lorsque Pie V, le futur Saint Pie V, c'était pas n'importe qui, celui-là, ne cédait devant personne, donc il a tellement haussé le ton que finalement Philippe II a cédé, et le procès et l'inquisiteur et Bartolomé Carranza avec son avocat sont partis en Italie. Il était 17 ans, ça fait 8 ans, à peu près 8 ans de procès espagnol, et à peu près autant, un peu plus, peut-être 9 ans, j'ai plus les dates sous les yeux, en Italie. En Italie, tout sera repris. Tout le procès va être repris, tout ce qu'avait fait l'Inquisition espagnole. Il y a 40 000 pages à ce dossier. Hein ? Vous vous rendez compte ? Et il y a un homme que j'admire énormément qui s'appelle, qui malheureusement est décédé lui aussi, parce que sous cette génération, bon, c'est José Ignacio Telliecha y Dígoras, que j'ai eu la chance d'entrevoir à Grenade en l'an 2000. Ça m'a beaucoup ému. Et il a donc publié, c'est lui qui a travaillé sur ces 40 000 pages du procès Bartolomé Carranza. Alors, au bout de 17 ans, c'est vrai qu'en Italie, quand même, le malheureux Bartolomé Carranza était mieux traité qu'en Espagne. Hein, mais bon, tout de même, c'est une carrière brisée nette. Pendant 17 ans, le siège épiscopal de Tolède n'a pas eu... Bon, il était vacant, finalement. Il n'y avait personne. Donc, il y a eu aussi un certain désordre. Et celui qui va lui succéder, ce sera justement Gaspar de Quiroga, inquisiteur général, dont j'aurais voulu vous parler, mais je n'ai pas le temps. Voilà. J'arrête, parce qu'on n'aura pas le temps de... Merci.